Africa numéro 1. Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot, présentée par Lamine Badiane sur Africa numéro 1.
Et salut à tous, j'espère que vous profitez bien de votre lundi de Pentecôte à l'écoute de votre émission Tout feu, tout foot. Un rendez-vous à ne pas manquer tous les lundis à partir de 20h15. Ah oui, mais cette fois-ci, il est 21. Hein. Ça, c'est la faute de la réalisatrice. Avec une équipe qui va vous décortiquer toute l'actualité du football africain. Une actualité dense avec, sur le continent, avec les éliminatoires des U20, avec les matchs retour, les résultats et l'analyse de la Coupe d'Afrique, des clubs champions et de la Coupe de la CAF, bien sûr. Nous reviendrons sur la fin du championnat de France, le classement final et les nouvelles d'Espagne. Enfin, l'Angleterre avec la finale de la Cup et la préparation de Liverpool. En bref, nous reviendrons sur le tournoi des légendes remporté par Espace FM. Et ça y est, les listes pour la Coupe du Monde tombent. Et ce soir, nous analyserons celle du Maroc. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Guy Lubunji et à Godje qui m'ont permis de découvrir le restaurant le restaurant
de la Mama. La mine.
Pourquoi j'en parle du restaurant de la Mama? Parce que c'est tout simplement quelque part où peut-être nous allons faire nos...
Oui, mais parce que tu y étais.
Ah, mais je suis allé voir.
Est-ce que tu nous as amené du couscous ou...
Non, le restaurant de la Mama, c'est pas ça.
T'as testé, c'est bon, c'est validé.
C'est validé. Maintenant, il faut juste savoir est-ce que dans ce restaurant-là, on pourra faire donc nos commentaires du mondial qui va bientôt commencer. Donc, nous sommes en train de négocier. On verra bien avec Guy et avec Godje et avec la Mama pour savoir si ça se fera là-bas ou pas. En tout cas, pour vous décortiquer tout cela, une équipe au complet avec Christian Chango qui est tout neuf, qui revient du... D'où ça ?
Du sud de la France, Arcachon.
Arcachon.
Bonsoir coach, bisous à Hélène, coucou à tous nos auditeurs et auditrices, et j'en profite pour souhaiter une bonne fête du Ramadan à tout le monde autour de la table et à tous les auditeurs et auditrices également
Hakim
de la radio.
Merci.
Salut coach Lamine Badiane, salut à toutes les auditrices et tous les auditeurs, et un gros coucou au plateau Hélène, Christian,
lui aussi
Salim et Willy, et également un bon Ramadan à ma maman qui m'écoute, à mon père. Et à toutes.
On les embrasse.
Et à Zinedine Zidane aussi.
On les embrasse.
on
les embrasse, bien sûr, Hakim. Willy Dourkonou, bien sûr, il est là.
Comme d'habitude, je suis un peu triste, mais je mets le sport en avant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Hélène. Coucou à tout le monde. Coucou à mes amis qui savent pourquoi je suis triste.
Ouais, effectivement. Nous sommes tristes avec toi, mon cher ami.
Ouais.
Et enfin, Salim Lanouni qui est venu nous rejoindre aujourd'hui. On va parler, bien sûr, de Coupe du Monde de Tunisie. On va parler des clubs champions. On va parler, et surtout que quand il y a les clubs champions avec les Tunisiens, l'étoile du Sahel, eh ben, il est toujours là.
Oui, je suis toujours là pour l'Afrique, pas que pour l'étoile. Mais sinon, salut à tous. Salut
bien répondu.
À Hélène et salut à tout le monde sur le plateau.
Et une réalisation, bien sûr, une émission réalisée par Hélène Visio. J'espère que cette fois-ci.
Visio.
J'espère qu'elle nous
fera. Bijoux. Hélène Bijoux.
Et elle ne nous fera pas de conneries, comme d'habitude. Et nous commençons cette actualité avec ce que nous avons vécu ce week-end, le tournoi des légendes.
Oui.
Et nous avons au téléphone celui qui avait organisé ce tournoi, ouais. Le capitaine et surtout l'organisateur.
Et le gardien de but.
Le gardien de but de l'équipe des anciens Togolais.
Ouais.
Ah, et puis un tournoi qui s'est super bien passé.
Ouais.
Bonsoir monsieur Aï.
Bonsoir monsieur Lamine. Bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir.
Alors Aï, ça y est, le tournoi des légendes, c'est du passé. Même si ce n'est pas passé, parce que l'année prochaine, vous allez reprendre ce tournoi. Alors, dites-nous un peu comment ça s'est passé.
Vraiment, je suis ravi. Je suis ravi du tournoi. C'est la première édition. Je pense que tous ceux qui étaient là, ils ont vu que ça s'est bien passé. On a passé vraiment un bon samedi soir ensemble. Vraiment, je suis ravi. Et c'est ce que j'attendais. C'est le début. C'est la première édition. Il y a des failles, on va se corriger pour l'année prochaine.
Mmh.
Vraiment, je suis content pour toute l'équipe qui était avec nous, qui ont travaillé, et je dis merci à tout le monde qui était là.
Mmh. Alors, il y a quand même quelque chose qui était quand même assez difficile, c'est Espace FM qui a remporté le tournoi. On espérait que ça devait être les Togolais ou peut-être les Guinéens ou même peut-être le Black Star. Mais on félicite quand même cette équipe d'Espace FM qui a été vraiment une super belle équipe.
Oui, mais ils avaient un jeu assez clair, léché, à une passe. Moi, je pensais même qu'ils étaient ensemble, ils jouaient toujours ensemble, mais ils m'ont dit après que ce n'était pas le cas. Mais c'était bravo, bravo pour eux et bravo pour tout le monde parce que c'était, le Togo était en finale aussi, il faut le souligner.
C'est vrai, en tout
donc,
cas.
C'était fantastique comme en fait.
Chapeau en tout cas à cette équipe-là, Mathias Willy, Dominique, Johan Bibi, Mouadi et Alimou, Roguin Cédric. Il y a même un joueur qui a joué à Monaco, Emreng Fritz, Roguin Cédric et tout ça.
Et Bibi, il rigolait pas lui.
Bibi, il rigolait pas lui, il avait envie de gagner. Hein. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde a joué le jeu, c'était des retrouvailles, Mayouté, Freddy, etc., etc. Bravo en tout cas à cette équipe d'Espace FM. Alors parlez-nous un peu de ce que vous avez vécu Aïe par rapport à ce tournoi et comment ou qu'est-ce que vous voulez faire pour l'année prochaine.
Oui, vraiment je pense que ce que je veux, j'ai vu ça, franchement c'est un truc qu'on appelle, c'est un retrouvaille de se retrouver parce qu'il y a des joueurs qui ont joué dans les mêmes clubs, ça fait des années qu'ils ne se voient plus. Là, ce tournoi-là permet qu'ils se sont vus, ils ont discuté. Vraiment, ça fait, c'était une belle fête. Donc, ce que j'attends du tournoi de légende, c'est un truc de retrouvailles pour qu'on essaie de se voir chaque année. Et c'est la première édition, ça s'est bien passé. Merci à Espace FM.
Et surtout bravo.
Là, ils ont bien joué. Ben oui.
Surtout bravo.
Bravo. Hein.
Ouais. Alors justement.
Bravo, ils ont remporté la coupe, mais bon.
Mais il faut qu'ils la ramènent, hein. Faut leur dire de ramener la coupe. Mais justement, non, Doyen Willy.
C'est la première édition, oui.
Alors, Doyen Willy et Aïe, ce qu'on peut retenir par rapport à ce tournoi, c'est qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls. C'est-à-dire que c'était.
Équilibré, oui.
Équilibré, c'était complètement équilibré. Ouais. Sauf pour la finale où Aïe, qui était gardien, a encaissé 4 buts. Hein,
ouais, 4-0. Il en a sauvé beaucoup aussi. Mais il faut aussi dire qu'on avait eu des stars aussi. Hein.
Ah ouais.
Kabadiawara, la bicyclette, Amara Simba,
Pascal Fenduno,
Kofi Fiao, il y avait du monde quand même.
Ouais, il y avait du beau monde. Il y avait, bon, bien sûr, Jean-Philippe Moukoko.
Oui, il y avait moi aussi. Donc,
bon, mais toi, tu as bien.
Non, mais lui aussi dire. Fait partie du Togo. Donc,
ah oui, voilà, il y avait moi.
Là, il a raison.
Oui. Ben,
oui, en tout cas,
il fait partie de l'équipe.
Tout à fait. En tout cas, il y en a un qu'on a vu, il n'a pas beaucoup joué, c'était Michel Colani. On l'embrasse parce qu'il y avait tellement de
monde.
Non, mais Michel Colani, parce qu'il a, je pense qu'il a mal à la cuisse. Oh, ouais,
oui, effectivement.
Il a eu une petite blessure à la cuisse.
Ouais,
c'était.
Voilà. Il a pas eu le temps de toucher la balle, mais bon.
L'essentiel,
c'est de participer.
Il a fait l'effort, voilà.
Ouais. Exactement. En tout cas, beaucoup de tirs au but. Hein. Tous les matchs étaient vraiment. Il n'y avait pas de prolongation.
Non.
Mais il y avait des pénalties. Mais quand j'ai vu des pénalties, Salim, j'ai vu des tireurs de pénalties qui prenaient des élans jusqu'au centre, qui arrivaient, ils étaient fatigués. Et quand ils tiraient la balle, ces anciens-là, la balle, alors elle allait de l'autre côté, dans les tribunes. Alors c'était magnifique, on s'est éclaté, franchement.
Les anciens Camerounais aussi.
Ouais, exact. Ouais. Alors il y a le Cameroun qui voudrait participer l'année prochaine.
Il y a le Gabon aussi qui m'avait appelé.
Le Gabon
aussi.
Ils m'ont appelé déjà.
Je pense qu'on doit.
Je crois que ça va devenir un grand tournoi.
Donc voilà. Ouais. Bah oui, ça va, c'est ce qu'on veut.
Devenir un grand tournoi.
Et puis. Merci aussi Africa numéro 1.
Hein. Oui, bien sûr. On sera là pour vous accompagner tout le temps, de toutes les
pour
façons.
Pour la deuxième édition, l'année prochaine. Édition.
Ouais.
Merci, monsieur Aïe. Ouais. Merci d'être venu. En tout cas, bravo et merci encore pour ce premier tournoi. Première édition.
Première édition
du tournoi des légendes.
Ouais.
Et l'année prochaine, on espère avoir encore beaucoup, beaucoup d'autres équipes. Et surtout au niveau de l'inscription.
Ouais.
Et cette fois-ci, comme c'est difficile à mettre en place, ce sera toujours 4 équipes.
Ouais.
Demi-finale, finale, 3e place. Et puis voilà, c'est fini. Ouais.
Ça doit être ça. Et je profite aussi pour dire merci à toutes les 4 équipes qui ont participé au tournoi.
Ouais.
Ça s'est bien passé, donc je les remercie et puis on se dit à l'année prochaine.
Ouais. Alors, on m'a dit que la 3e mi-temps s'est très très bien passée.
Très bien aussi.
La 3e mi-temps était très 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 bien passée.
Ah ouais. Et j'y étais en plus.
Ta table était réservée jusqu'à 4h du matin.
Ouais, j'y étais en plus.
Ben oui, mais moi, je fais Ramadan, alors donc je ne peux pas venir.
Non, non, on a terminé à 6h du matin.
Je sais, mais sa table, on est obligé de donner ça avec 4h10.
D'accord.
C'était marqué son nom, donc personne ne peut pas...
L'apprendre.
Là-bas jusqu'à 4h du matin.
En tout cas, merci beaucoup,
merci
monsieur.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Messieurs, donc, le championnat des U20, on va commencer par ces Christian Chango ou Hakim. Donc, Christian.
Oui. Allez,
Christian, c'est parti pour les résultats.
Les résultats, oui, du dernier tour des éliminatoires. Exactement. Hein, de la CAN des moins de 20 ans. On va donner donc les résultats en commençant par vendredi, la victoire du Cameroun au tir au but après une victoire 1-0, 5 tirs au but à 4 face à l'Ouganda. Le samedi, il y a eu Zambie face au Rwanda, un but partout, mais qualification de la Zambie. Côte d'Ivoire, Gabon, 2-0 pour la Côte d'Ivoire, mais c'est le Gabon qui se qualifie avec une victoire 3-0 au match aller. Guinée-Mauritanie, défaite de la Mauritanie, 3-2, mais la Mauritanie est qualifiée. Égypte-Sénégal, 0-0 comme au match aller, et le Sénégal l'a emporté au tir au but. 7 tirs au but à 6.
Non, j'ai pas compris. On peut recommencer ce résultat-là?
Non, arrête.
Égypte-Sénégal 0-0. Qualification du Sénégal, en tout cas. Mali-Tanzanie, 4-1 pour le Mali et qualification des Maliens. Ghana-Algérie, 2-0 pour le Ghana. Qualification ghanéenne. Soudan-Burundi, 2-0 pour le Burundi qui se qualifie. Afrique du Sud-Mozambique, 3-0 pour les Bafana-Bafana qui se qualifient pour le tour prochain, pour le tour suivant. Libye-Burkina Faso, 3-0 partout entre les deux équipes, qualification du Burkina. Bénin-Gambie, 2-0 pour le Bénin. Nigeria-Guinée-Bissau, 1-0 pour le Nigeria. Angola-Malawi, 4-1 pour le Malawi. Et Congo-Brazzaville face au Botswana, 3-0 pour les Congolais.
Alors, vous avez parlé du Bénin, qualification ou
oui.
Pas
oui, qualification du Bénin.
2-0.
Face à la Gambie.
Ouais. Face à la Gambie. Alors qu'on s'attendait, vous vous rappelez, on avait eu l'entraîneur de l'équipe des U20 du Bénin la semaine dernière, ouais. Et à qui venait d'atterrir et à qui on posait la question, il disait, bon, ben, Inch'Allah, quoi.
En plus, ils avaient perdu 2-1 au match aller.
Oui, donc exactement. C'est une prouesse de gagner 2-0.
Oui,
après.
On avait dit qu'ils étaient en vie, donc c'est leur tirer le chapeau, hein, oui. Ces jeunes béninois.
Oui,
hein.
Contre la Gambie, parce que la Gambie, c'est, au niveau des jeunes, ils sont très très forts. Hein.
Oui, le coach nous avait dit, oui, c'était la première fois que ces joueurs sortaient du territoire béninois. Et donc, avec peut-être cette sortie-là, ça leur a permis un peu d'avoir...
Oui, mais il y a deux choses. Ils ne sortaient pas et ils n'avaient pas de compétition non plus. Donc,
Mais on avait insisté sur le fait qu'ils étaient en vie.
Oui, exactement.
Parce que
exactement.
Le but marqué, on avait insisté sur ce but-là marqué, ouais, qui était très important.
Qui était très important, oui, bien sûr. Alors, messieurs, je fais le tour de table pour savoir quel est le match qui vous a marqué.
Moi, c'est le match de la Mauritanie, les Mourabitoun qui sont qualifiés face à la Guinée. C'est une prouesse énorme. Donc, ça fait,
qui
fait plaisir.
Qui élimine la Guinée.
Ouais, mais il faut le faire.
Les résultats, c'est encore quoi, les résultats?
Les résultats pour la Guinée?
Oui.
Pour la Guinée, ils ont perdu 3-2 face à la Mauritanie.
Et au match aller?
Et au match aller, victoire 1-0 de la Mauritanie.
Ouais, en fait, ils ont gagné
2-3-2.
3-2,
voilà. 3-2, c'est... Comme le dit Woody, c'est vrai qu'on a des sélections, Lamine, sur ces éliminatoires de la CAN U20 qui sont assez surprenants, même si on le sait que certaines nations travaillent plutôt bien chez les jeunes, chez les espoirs. Mais quand on regarde la Mauritanie, effectivement, qui réussit à se qualifier aux dépens de la Guinée, c'est une très très bonne performance pour les Mourabitoun, les jeunes Mourabitoun. Et pour leur football, parce que on sait que lors du Chan, c'était en 2014, ils avaient fait un beau parcours avec Patrice Neveu, si je dis pas de bêtises, l'ancien sélectionneur des locaux.
Non, maintenant c'est Corentin Martins.
À cette époque-là, c'était Patrice Neveu qui tenait l'équipe. Ouais. Et on voyait effectivement quelques jeunes apparaître au sein de la sélection des locaux avec le Chan sur la Mauritanie. Et là, ça prouve effectivement le résultat positif et le travail qui est bien fait du côté de la Mauritanie.
Ouais. Alors, il y a aussi du côté de... Je crois que la surprise, peut-être on ne peut pas parler de surprise, mais c'est qui va faire vraiment plaisir à Phil le Montagnard, c'est la qualification du Gabon. Enfin, le Gabon qui voit un peu son équipe, son football quand même, remonter un peu, Christian Chango.
Oui, hein, le Gabon qui se qualifie, mais c'est surtout... Dû au match aller, de ce que moi j'ai vu un petit résumé d'un petit quart d'heure sur cette rencontre. Et honnêtement, ils ont eu chaud, hein, les Gabonais, quand même, hein, face à la Côte d'Ivoire. Après.
Oui, parce qu'ils ont gagné 3-0.
3-0 à l'aller, c'est ça. Au match retour, ils perdent 2-0. Et sur le match retour, moi, j'ai senti, l'impression que j'ai eue visuellement, c'était qu'il y avait de la pression. Les gens tremblaient un peu pour les jeunes Gabonais. Mais ils ont réussi à rester assez solides pour pas prendre le troisième but qui les aurait peut-être fait douter encore plus. Mais oui, il faut les féliciter, puisqu'on sait que la sélection des Panthères, c'est pas évident dans l'équipe senior ces dernières années. Donc. C'est bien, c'est de bons résultats pour les jeunes. Et après, il reste encore un tour avant la CAN. Donc, il faut qu'ils continuent à capitaliser là-dessus, surtout qu'ils travaillent.
Salim, le Mali qui, au match aller, avait battu la Tanzanie 2-1. Et du côté de Bamako, c'est 4-1. Ils n'ont pas fait de détails, les jeunes Zéglonais.
Ah non, ils n'ont pas fait de détails. Et puis bon, c'est au niveau de cette catégorie-là, c'est le Mali, c'est un poids lourd. C'est un monstre. Donc, ce résultat-là... Ça confirme le beau résultat à l'aller à Dar es Salaam, parce qu'ils avaient gagné 2-1 à Dar es Salaam en Tanzanie. Sinon, moi, il y a un résultat aussi qui m'intéresse, c'est le Malawi qui est parti chercher sa qualification à l'extérieur en Angola. Mmh. Ils avaient perdu le Malawi 2-1 chez eux et ils sont partis chercher la qualif à l'extérieur en Angola 4-1. Le football angolais qui ne va pas très bien, ça fait maintenant plusieurs années au niveau des seniors qu'on ne les voit plus. Que ce soit à la CAN ou même dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde, ils n'y sont pas puisqu'ils sont éliminés en barrage. Et là ils perdent encore en jeunes. Et même les clubs, le Petro Atlético, etc., le Benfica Luanda, tous ces clubs-là qu'on aimait bien voir au niveau des compétitions africaines, aujourd'hui, ils ne vont plus loin. C'est dommage, le football angolais est un peu malade. J'espère qu'ils vont retrouver des couleurs très vite.
Oui, le football angolais est malade simplement parce que les clubs sont malades. C'est le même problème pour la Côte d'Ivoire, qu'ils ont un problème parce que le championnat est malade. Donc les gens ne pensent pas que les championnats, le football local, est lié à la qualité ou à la santé aussi du football en général. Ils pensent qu'il faut avoir une sélection, les A et les juniors, pour être en bonne santé. Non, il faut que le football local soit en bonne santé d'abord.
Ok. Il y a eu une autre équipe aussi qui a eu... vraiment, comment tu appelles ça,
ouais.
Chaud aux fesses, c'est le Nigeria,
ouais.
Qui avait fait match nul 2-2,
c'est vrai,
contre la Guinée-Bissau, et qui cette fois-ci a réussi à l'emporter 1-0.
Ouais, ils ont l'expérience, la mine, dans cette catégorie-là d'âge, chez les moins de 20 ans. On a vu la génération justement dorée de ces jeunes qui font partie de cette sélection des moins de 20 ans. Ils avaient remporté la Coupe du Monde des moins de 17 ans il y a 2 ans. Face à une excellente équipe du Mali, on rappelle les Aiglonais qui étaient allés en finale de Coupe du Monde face au Nigeria. Et là, c'est un peu cette génération qu'on retrouve. Ils l'ont joué peut-être à l'expérience, mais ils ont été tenus effectivement en échec par la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau qui n'a pas démérité face au Nigeria. Et c'est vrai que cette confrontation directe Nigeria-Guinée-Bissau, elle a donné du fil à retordre pour le Nigeria. Et ça a permis tout simplement à la Guinée de montrer aussi son côté footballistique qui progresse. Et qui va de l'avant aussi, tout comme celui de la Mauritanie.
En tout cas, ce n'est pas le cas de l'Algérie, qui a été éliminée dès le premier tour de l'autre côté là-bas. Alors, c'est une...
contre-performance.
C'est une dégringolade du football algérien ?
Non, c'est contre le Ghana. Il faut relativiser quand même.
Ouais, le Ghana, c'est une équipe comme tout. Mais alors...
C'est le poids lourd, avec le Mali, dans ces catégories-là.
Chez les jeunes, le Ghana... C'est pour ça que je dis que la prouesse de la Mauritanie est énorme. Parce que chez les jeunes, il y a le Mali, le Ghana et la Guinée. Ils sont très forts.
Et le Sénégal, vous en parlez pas.
Mais je parle de base. Il y a des nouveaux pays, les anciens.
C'est pas
des anciens.
Possible, ça. C'est pas possible.
Mais soyons sérieux, je parle du football de base en Afrique.
Mais l'Algérie fait un bon parcours parce qu'au tour précédent, ils éliminent la Tunisie dans un derby vraiment serré. Ils se qualifient en plus en Tunisie au match retour. Et là, ils perdent contre le Ghana, ils n'ont pas eu de chance au tirage. Il faut dire aussi que jouer le Ghana, jouer la Tunisie en premier, jouer le Ghana en deuxième, voilà quoi, c'est trop dur. Oui. Après que l'Algérie a fait match nul à l'aller contre le Ghana 0-0 et perd là-bas 2-0, c'est un truc classique. Hein, le Ghana bat le Brésil, le Ghana bat la France, le Ghana bat l'Allemagne, le Ghana bat l'Italie, l'Espagne, l'Argentine. Ghana, c'est le Ghana dans ces catégorie-là, c'est énorme. C'est normal.
Il y a la Zambie aussi, coach, qui a fait match nul, 1-0. Moi, de toutes les équipes qui jouaient ce week-end, c'était celle-là qui m'intéressait en particulier. C'est eux les champions en titre et ils font partie dans les équipes fortes, des fortes nations de ces catégories-là. La Zambie en fait partie. Ouais. Et Voilà, sur ce match-là, bon, ils avaient fait le job, on va dire, du côté du Rwanda. Et là, à domicile, ils ont surtout géré la partie. Mais eux, clairement, par rapport à toutes les équipes, je les mets vraiment tout en haut dans le haut du panier. Et encore une fois, je pense que si ça se passe bien pour eux, la qualification, en 2019, du côté du Niger, je les mets parmi les favoris.
Ah, vous oubliez aussi une autre équipe, hein, c'est le Congo. Et ensuite aussi, c'est le Burkina Faso.
Libye, Burkina Faso, 3-0, hein, rencontre enlevée, il y a eu des buts de l'action. C'était un match vraiment où ça allait dans tous les sens. Et ouais, c'était vraiment du football, ça m'a fait penser un peu au football des années 90, dans le football africain, où vraiment ça jouait, ça allait dans tous les sens. Et c'était plaisant à voir. C'est le Burkina Faso d'Adama Sorabié qui se qualifie, mais vraiment c'était... Pour moi, de tout ce que j'ai vu là sur ce week-end-là, c'était la plus belle rencontre. Vraiment, c'était relevé, enlevé et c'était plaisant à voir.
Alors, il y a quelques matchs là pour le prochain tour. Hein. On parle d'un certain Burkina Faso-Gabon, d'un Ghana-Bénin. Ah,
c'est un derby.
Afrique du Sud-Malawi, Mauritanie-Nigeria, tiens.
Ouais.
Salim.
Dur pour les Morabitoun. Ouais. Les Morabito, là, ils n'ont pas de chance. En plus, le match retour, ça va être là-bas, à Lagos ou à Abuja, très certainement. Enfin, au Nigeria, en tout cas. Donc, ça va être dur. S'ils arrivent à sortir le Nigeria, ça va vraiment confirmer leur beau parcours. Et ça sera peut-être, s'ils passent le Nigeria, je dis bien s'ils arrivent à passer le Nigeria, ça sera l'outsider principal, la Mauritanie, pour ce tournoi-là.
Ah ouais, si jamais ils battent le Nigeria, moi, j'irai sur place pour savoir... Comment ça se passe? Ouais, parce que moi j'ai fait ça au niveau de Burkina pour savoir pourquoi ils sont devenus forts. Et j'ai vite compris.
Bah ouais, mais c'est tout simple. Ouais. Les Mirabutun, il y a beaucoup. Il suffit de traverser le fleuve Sénégal et d'aller de l'autre côté en Mauritanie.
À chaque fois,
les Sénégalais qui vous ont là-bas, c'est tout.
Ouais, mais... Faut pas chercher de midi à 14 heures.
Non, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là?
Pour le coach, même les Algériens, ils sont
Sénégalais. Les Algériens, ils sont Sénégalais aussi. Faut arrêter.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Mais si on reste toujours sur le continent, mais cette fois-ci, c'est les clubs champions, les événements de la CAF, Coupe Ligue des Champions et Coupe de la CAF.
Coupe de la CAF, on va commencer par la Ligue des Champions, honneur à la grande dame avec les résultats donc, de la deuxième journée. Donc victoire de l'Étoile du Sahel face aux Esco United 2-1. KCCA d'Ouganda face à Al Ahly d'Égypte, victoire 2-0 des Ougandais. Swallow Mbamane Swallows face à Primeiro d'Augusto, victoire du Swallows 1-0. L'Espérance a battu les Township Rollers 4-1. Difa El Jadida face au TP Mazembe, victoire du TP Mazembe 2-0. Sétif face au MC Alger 1-0 pour le MC Alger. Et le Wydad face à l'AS Togoport 3-0 pour le Wydad. Et bien sûr, le demain, il y a encore une journée qui va jouer Oroya face au Mamelodi Sundowns. On va donner les classements. Dans le groupe A, l'Espérance Toulouse premier, Township Roller deuxième, Kampala City troisième, Al Ahly quatrième. Dans le groupe B, le Mazembe et le MC Alger aux premières places. Dans le groupe C, le Wydad premier devant Oroya, Mamelodi Sundowns et AS Togoport. Et dans le groupe D, l'Étoile du Sahel, Mbambane Swallow, Zesco United et Primeiro de Augusto.
Et nous commençons par l'Espérance de Tunis face au Rivers Township. Messieurs, on a dit que c'était le score.
Oui, le score, c'est
4-1.
Ils n'ont pas rigolé, les Tunisiens.
Oui, parce que eux, ça fait longtemps qu'ils ont des problèmes. Donc, ils ont envie de revanche par rapport à eux-mêmes. Donc, ce score, c'est un bon score parce que l'Espérance avait des problèmes, comme notre ami Salim va en parler. Donc, l'Espérance, ils se réveillent parce qu'ils sont habitués aussi de ce tournoi.
Et pourtant, ça n'avait pas été... en première période, ils ont marqué à la 26e minute par Belaï et l'égalisation à la 41e minute par Boy. Alors donc, c'est un but partout à la mi-temps, c'est en deuxième mi-temps que Rivers a explosé.
Oui, c'est pour ça que je dis qu'eux voulaient montrer quelque chose. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont à la traîne, hein, et ils ont des problèmes. Maintenant, ils veulent revenir sur le devant la scène sur le continent.
Mmh. Ouais, au niveau du, comme je vais rebondir sur ce que disait Doyen. En fait, le problème c'est que championnat tunisien, il y a beaucoup d'incidents. C'est plus ce que c'était. Donc la Ligue des Champions là fait beaucoup de bien à l'Espérance et à l'Étoile. Là, en l'occurrence, l'Espérance dans ce match-là, comme tu le soulignais, coach Lamine, c'était pas facile. Un but partout à la mi-temps contre les Townships qui ont vraiment posé des problèmes à l'Espérance, surtout en première mi-temps. Ils ont eu même la balle du 2-1. qu'ils avaient raté, hein, les Botswanais du Township. Donc, on a eu un grand Blaïli, l'Algérien, qui est vraiment en forme, hein, qui est revenu. Hein. Je rappelle qu'il était suspendu, pendant presque 2 ans pour dopage. Et il est revenu à l'Espérance de Tunis parce qu'il était retourné à l'ES Sétif. Donc là, il revient à l'Espérance de Tunis et il brille avec un très gros match. Un but aussi de Badri.
Et en doublé d'ailleurs. Hein. Ouais, il marque à la 46e et à la 90e. Ouais. Lui, c'est juste quand c'est fini, là, quand les gens sont déconcentrés, qu'il met le pion. Quoi.
Qui c'est à Badri ?
Oui, exactement.
Badri, c'est le sauveur de Kinshasa, Badri. Badri, c'est lui qui met le 2-2 là-bas. C'est lui qui permet à la Tunisie d'aller au Mondial. Mm-hmm. C'est lui qui sera... en équipe nationale et apparemment vu la blessure de Youssef M'Sakhni, c'est lui qui sera titulaire peut-être. Donc lui c'est un sauveur, ouais. Lui c'est sauveur de l'Espérance et de l'équipe nationale. Et il y a eu un but de Montser qui est un ancien international tunisien qui est encore jeune, qui s'était un peu perdu, qui est revenu là, qui est intéressant, c'est un milieu de terrain qui est assez intéressant. Donc belle victoire pour l'Espérance sportive de Tunis qui prennent la tête du groupe. Mmh. Et Al-Ali dans ce groupe là est malade, hein.
Ben oui, justement, Hakim, Al-Ali qui est le dernier de ce groupe là, ouais. Qui a été battu par la KCCI, oui. 2-0.
Kampala City.
74e avec Ibrahim et 89e avec Awani, ouais. Sur penalty. Donc vraiment, ouais. Qu'est-ce qui se passe du côté de Al-Ali du Caire? On se pose des questions.
C'est quand même étonnant et troublant, d'autant plus que c'est l'une des plus belles équipes en Afrique au niveau du palmarès. Coach Lamine, que ce soit en Ligue des Champions ou même en Coupe de la Confédération africaine, ils se sont plusieurs fois mis en avant. Et c'est vrai que face à ce club ougandais, moi je trouve que c'est, faut peut-être mettre l'aspect positif du côté de Kampala City et ce club ougandais, parce c'est que on parle souvent effectivement de la contre-performance des gros clubs africains, mais là je pense que c'est surtout la bonne performance du club ougandais qu'il faut mettre en avant et souligner sur cette rencontre qu'ils ont réussi à maîtriser de bout en train, Coach Lamine, jusqu'à la fin de la jusqu'au coup de sifflet final.
C'est ça, Hakim, je rejoins totalement Hakim là-dessus. Moi je mettrais surtout en avant Kampala City, du coup, KCCA, qui sont novices, hein, à ce niveau-là, au niveau de la Ligue des Champions, ouais. Et qui jouent sans complexe. Et puis, Al-Ahly est un peu dans le mal, hein, t'en as un peu parlé là, Hakim, donc ils ont su en profiter. Et puis, la Ligue des Champions, c'est ça. Hein,
ouais, mais il vient de dire que c'est le club le plus titré en Afrique, mais c'est le club le plus titré au monde.
Au monde, ouais.
Donc, c'est un grand club. Donc, et c'est pour ça qu'il faut reconnaître la valeur de cette équipe ougandaise.
Moi, j'ai eu le privilège d'aller visiter les installations d'Al-Ahly,
oui,
au Caire.
Moi aussi.
Mais je peux vous dire que les installations du PSG,
oui, non, mais c'est rien du tout à côté.
C'est peanuts à côté.
Oui.
Et ils ont tout. Ils ont la télévision. Ils ont tout ce qu'il faut.
Incroyable.
Pour un club.
Moi, je connais des clubs, Benfica ou autre.
Ils ont 1 million de followers. Hein. Ouais. Plus d'un million de followers.
C'est pour ça qu'il faut souligner la performance, comme l'a dit Christian et Willy,
Salim
Igam de Kampala City, parce que c'est vrai que taper Al-Ahly 2-0, c'est comme si tu parlais de tes copains des Mantes-la Jolie,
des sapeurs-pompiers.
Les sapeurs-pompiers de Mantes-la Jolie qui vont aller taper à l'UFC Barcelone.
Oui.
c'est vrai que c'est Kampala qui gagne le match contre Al-Ahly. Même les commentateurs algériens, même les analystes, etc., sur les plateaux télé égyptiens, ils ont dit que c'est Kampala qui gagne le match. Et de toute façon, ça leur a rappelé le même match de l'équipe nationale égyptienne qui, pendant ces éliminatoires de Coupe du Monde, sont allés perdre en Ouganda 1-0 à Kampala, sur le même terrain. Et l'équipe nationale égyptienne s'était complètement fait bouffer par l'Ouganda.
Ouais,
et là, c'est la même chose. Mmh. C'est le Kampala City qui bouffe le Al-Ahly sur ce match-là. Donc le coach d'Al-Ahly est parti. Hosni, il est parti. Alors maintenant, je sais pas qui va reprendre l'équipe, mais là, Al-Ahly, le finaliste, hein, de la dernière édition, je le rappelle, le finaliste de l'édition 2017 contre Wydad.
Oui.
Je sais pas comment ils vont faire, parce que là ils n'ont qu'un seul point en 2 matchs. Ils ont concédé le match nul à domicile lors de la première journée, 0-0 contre l'Espérance. Là ils perdent, ils prennent 2-0 à Kampala. 2 matchs sans but pour Al-Ahly, c'est une première en Ligue des Champions.
Il faudra se réveiller pour Al-Ahly.
Ouais.
Deuxième groupe, c'est le Sétif face à MC Alger. 1-0, 89e minute, Karaoui du MC Alger qui marque le but. Ça, il donne vraiment. Un but à l'extérieur face à Sétif, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça.
Ouais,
aussi.
ils ont encore plus plongé le S Sétif dans la crise, parce que Sétif se retrouve là avec 0 points. Ils avaient perdu à Mazembe largement. Et là, il perd contre le MC Alger. Le MC Alger, c'est le premier club africain, le premier club algérien à avoir gagné la Ligue des Champions dans les années 70. Donc c'est un grand club, le MC Alger. Hein, c'est lui qui a montré la voie à la JSK et le SC Tif et les autres.
Et par c'est l'un des rares clubs à pouvoir battre le Afia de.
Exactement, en finale. En finale, ils ont battu le Afia en finale. Ouais. C'était au tir au but, je crois, Doyen. C'était au tir au but. Hein. C'était un 3-0 là-bas et un 3-0 en Algérie. Ouais. Un 3-0 défaite à Conakry et 3-0 victoire en Algérie. Et c'était au tir au but à l'époque. C'était énorme à cette époque-là.
Le faire.
Et donc voilà, le MC Alger qui gagne à l'extérieur. Et concernant le TP Mazembe...
TP Mazembe qui, quand même, est allé chercher une grosse victoire à El Jadida. Ouais. 2-0. 51e Malongo et 65e Sissoko.
Oui, mais de toute façon, sur les plateaux télé de la grande chaîne célèbre Qatari, avec tous les consultants des pays nord-africains, avant même que la compétition démarre, ils avaient dit que le TP Mazembe allait sortir de ce groupe premier. Mmh. Et ils ont eu raison parce que, franchement, le TP Mazembe, là, il retrouve vraiment des couleurs.
Ils ont 6 places. Hein.
Ouais,
6 points.
Ouais, mais ils retrouvent des couleurs. Là, je suis en train de voir le TP Mazembe de 2015. J'ai l'impression de voir le TP Mazembe 2015.
C'est ça qui est intéressant du côté du TP Mazembe, c'est que là, ils étaient dans une période un peu compliquée. Et au final, c'est le propre des grands clubs de savoir se relancer, repartir sur un cycle nouveau et puis revenir aux standards auxquels le club nous a habitués. Et là, clairement, oui, dans ce groupe, moi, je les voyais peut-être un peu au-dessus des 3 autres équipes, mais là, clairement, quand même, on sent qu'il y a quand même une vraie différence de rythme que le TP Mazembe.
C'est pour ça que les grands clubs ont toujours une histoire, une tradition de gagner des matchs. C'est parce que le club avait de la peine un peu parce qu'il y avait des changements d'entraîneur. Maintenant, ils sont habitués à un coach et ça reprend.
Et puis, ce qui est bien, c'est que le TP
Mazembe... Un entraîneur congolais, en plus, il faut souligner.
Et le TP Mazembe, il gagnait les Coupes de la Confédération les deux dernières années. Parce que les deux dernières années, il n'était pas en poule avec des champions. Il se faisait éliminer avant. Ouais, c'était fait éliminer par le Raja et puis c'était fait éliminer par Harare. Et après, là, ils reviennent. Donc c'est pas mal. Ils reviennent et c'est un candidat sérieux à la victoire finale.
Oui.
Alors, on a parlé aussi de l'équipe d'El Jadida qui a été quand même une petite surprise au niveau de son arrivée dans la phase de groupe.
Oui, mais une surprise parce qu'on ne connaissait pas le club. Mais pas une surprise parce que le football marocain est en bonne santé. Donc, ce n'est pas une surprise. Pour moi, ça ne me surprend pas parce que quand on voit la forme actuelle...
El Jadida lui-même.
Oui, mais le club, on ne connaît pas le club. Mais la santé du football marocain, ils ont tout gagné. Le CHAN,
Champions League
et tout. Donc,
je crois que le championnat marocain, avec ses clubs, il le démontre bel et bien. On a un championnat qui se métamorphose. La preuve en est, le club de Tanger, on en a parlé tout à l'heure en conférence de rédaction, c'est une première historique, c'est la première fois qu'il remporte la première division, la Botola marocaine. Donc on voit effectivement du changement, on voit de la métamorphose. Et là, par rapport à Difa El Jadida, sa défaite sur Mazembe, c'est pas catastrophique, même si ça reste une défaite. Mais quand on regarde de l'autre côté de la compétition, on va en parler tout à l'heure, en Coupe de la Confédération africaine, quand on voit un club comme Berkane qui réussit à taper pour une première historique en phase finale de groupe, eh bien l'ogre soudanais El Hilal s'est montré et s'est démontré la mine que le football marocain se porte bien, malgré effectivement cette défaite face au Mazembe. Hein, c'est du lourd aussi, c'est du très très lourd.
Ok, alors on va juste prendre du côté du Standard Jomo de Bang. On a 2 minutes avant la publicité. Jomo, bonsoir. Allô?
Oui. Coach, bonjour.
Bonjour, Jomo de Bang, comment ça va?
Comment allez-vous, coach?
Rapidement, parce qu'on a une minute là pour débriefer.
Moi, je voudrais juste parler de la Coupe, la Ligue. Si c'est possible que j'appelle après.
Coupe de la Ligue, laquelle Coupe de la Ligue?
Coupe de la Confédération?
La Ligue où nos frères de Marseille ont été éliminés.
Deuxième partie. Deuxième partie, on vous appellera pour revenir là-dessus.
Il n'y a pas de problème.
Merci.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Sur la radio africaine 01 55 07 58 00 avec Christian Chango, avec Salim Lamini, avec le doyen Willy Dorkonou et Suida Hakim Djelouat. Donc 00 33 1 50 07 58 00 depuis partout dans le monde. Vous nous écoutez sur le 107.5 à Paris, à Melun sur le 92.3. Messieurs, nous étions en train de parler du tout-puissant Mazembe qui balaye tout sur son passage. Eh bien, nous allons passer à un autre groupe. Je rappelle que le classement, Christian Chango, le classement, c'est Tout-Puissant Mazembe.
Oui, Tout-Puissant Mazembe, premier avec 6 points. 2 matchs, 2 victoires. Derrière, le MC Alger avec 4 points. Difa El Jadida, 1 point. Et Sétif, 0 point.
Alors, le prochain match, je rappelle que les prochains matchs, ce seront à partir du mois de juillet. Hein.
Oui, exact. Après la Coupe du Monde, hein, comme Coupe du Monde oblige. Donc, il y a une pause et ça reprendra après la Coupe du Monde. Donc, courant, oui, à la mi-juillet.
Autre match qui se sont déroulés, qui s'est déroulé ce week-end, c'est bien sûr le Wydad de Casablanca face au Togo Port. Et le Togo Port du club de Doyen Willy n'a pas fait de... Comment je dois dire même ?
A fait dans...
Oui, mais...
A explosé, quoi.
Oui.
A explosé, quoi.
Oui, mais ce qui est normal.
A explosé, quoi.
Oui, ce qui est normal par rapport à des connaissances sur place... Togo Port ne s'est pas bien préparé pour cet événement. Donc, en sport, on ne rigole pas. Parce que si les autres se préparent et que toi, tu ne travailles pas, ça ne marche pas.
Mais 3-0, c'est quand même assez sévère. Quand même.
Oui, mais c'est sévère pour c'est pas sévère pour une équipe qui ne s'est pas préparée. Parce que quand on sait qu'on va en Champions League...
Il aurait fallu combien ?
Mais je ne sais pas, je ne veux pas dire des choses qui ne tiennent pas la route. Mais le problème, c'est qu'il faut se mettre au boulot.
Mais surtout quand tu tombes, quand tu es opposé au champion en titre, au tenant du titre. Si c'était pas préparé, tu prends la fessée derrière. Et
ouais.
Puis là, on a vu quand même qu'il y avait une différence de niveau entre les deux. Sur cette rencontre, en tout cas,
ouais.
Peut-être qu'au match retour, ce sera une autre configuration. Mais là, clairement, le Wydad était 2-3 niveaux dessus et 3-0 encore. C'est gentil.
Ouais, mais coach, tu avais dit l'autre fois que ça relève d'une surprise de voir cette équipe en Ligue des Champions.
En finale, ouais.
Ils ont éliminé Al Hilal au tour précédent.
Mmh. Oui, mais
l'ogre soudanais. Les Togolais avaient éliminé Al Hilal là-bas à Khartoum en perdant 3-1. Donc, à Omdurman, pardon. Ils jouent à Omdurman et ils ont perdu 3-1 là-bas. Donc, c'était déjà énorme ce qu'ils avaient fait. Mais là, c'est vrai. Alors, moi, je suis d'accord et pas d'accord. Ils perdent chez le Wydad. C'est pas une surprise parce que le Wydad est le tenant du titre. Mais prendre 3-0, c'est vrai que c'est trop parce que...
Et puis ce sont des buts qui ont... ouais. Salim, ce sont des buts qui ont été marqués très tôt. Parce que dès la deuxième minute, Onadjem avait déjà marqué. Ensuite, cinquième minute, Arab a marqué. Et ensuite, ils se sont amusés peut-être à la 57e minute en deuxième période. Nahiri a marqué le troisième but.
Oui, mais
donc
quand...
ils n'étaient pas vraiment très inquiétés, le Wydad de Casablanca.
Oui, mais si on se renseigne, on va voir que parmi toutes les équipes, c'est l'équipe qui a le moins travaillé. Donc, s'ils perdent 3-0, ben c'est normal. Ils ont même perdu chez eux à la maison l'autre fois. Et le premier match. Donc, c'est normal. Tout ce qui leur arrive, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas... le gain d'un match ne relève pas de hasard à chaque fois. Ça peut se passer une fois, mais pas deux fois, pas trois fois.
C'est vrai.
Le Wydad est avec 4 points, Christian Chango, le classement.
Exact. Le Wydad premier avec 4 points. Oroya qui joue demain face au Mamelodi Sundowns à 3 points. Le Mamelodi donc à 1 point. Et l'AS Togo Port, 2 matchs, 2 défaites, 0 point.
Autre match, il y a bien sûr, on a parlé de Mbamban Swallows.
Swallows.
Victoire 1-0. Hein.
Contre le Primeiro de Gauche.
C'est ça, exact. Et dans l'autre rencontre qui opposait un peu les deux ogres du groupe, l'Étoile du Sahel a battu le Zesco United 2-1.
Alors, du côté de l'Étoile du Sahel, on va avoir.
Les Nejma.
46e Begni, 56e Marel.
Marai, ouais.
Et du côté du Zesco United, c'est seulement à la 90e qu'ils ont pu réduire la marque par Cambolé.
Ouais, mais heureusement qu'ils n'ont marqué qu'à la 90e parce que je pense s'ils avaient un petit peu plus de temps, ils auraient pu égaliser. L'Étoile du Sahel n'a pas fait un bon match.
Non, vous dites ça pour vous faire peur, là.
Non, c'est un constat. L'Étoile du Sahel n'a pas fait un bon match. Première mi-temps catastrophique là par l'Étoile sportive du Sahel. Le Zesco United a raté de très très grosses occasions en première période. Le public était très énervé, ils ont sifflé leurs joueurs à la mi-temps. Je rappelle que l'Étoile du Sahel reste sur une défaite 4-1 au final de la Coupe de Tunisie face au club africain. L'Étoile du Sahel a fini 3e du championnat, donc ne sera pas qualifiée en Ligue des Champions la saison d'après, sauf s'ils arrivent à la gagner, ce que je doute vraiment, je doute fortement, parce que c'est impossible qu'ils gagnent la Ligue des Champions cette année. Par contre,
il y a toujours un peu d'espoir.
L'espoir, ouais, mais non, franchement, ce que je vois là, c'est impossible. Et l'entraîneur va partir. L'entraîneur algérien, vainqueur avec le SC Tif de la Ligue des Champions 2014, Khairdine, il va partir. Donc, je ne sais pas qui est-ce qu'ils vont mettre à la tête de cette équipe d'État sportif du Sahel. Déjà, elle s'était qualifiée vraiment ric-rac avec une victoire 4-2 à l'aller contre Plateau United au tour précédent et une défaite là-bas au Nigeria 1-0. Mais c'était miraculeux. Je ne sais même pas comment ils avaient fait pour réussir à se qualifier là-bas au Nigeria. Donc, je ne sais pas. L'Étoile du Sahel, ça ne joue pas bien en ce moment. Ce n'est pas bon. Il y a très peu d'internationaux en équipe de l'Étoile sportive du Sahel, en équipe tunisienne, hein, alors que ce n'était pas le cas avant. Mmh. Là, il y a qui est appelé à l'Étoile ? Il n'y a que Bédoui qui joue en équipe nationale, c'est tout. Mmh. Le reste ne sont pas sélectionnés.
Bon. De toute façon, on reviendra un peu
Tunisie,
sur...
En Tunisie, je parle.
Oui, je parle de Tunisie, bien sûr. Hein. On reviendra sur justement, si vous nous tendez la perche, pour parler vraiment des listes qui sont en train de tomber. Ouais. Dont celle qu'on va travailler aujourd'hui, c'est-à-dire celle du Maroc.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Messieurs, donc ça y est, c'est fait. Notre cher ami, l'homme à la chemise blanche, a donné sa liste. La liste des 23. Christian Chango, Hakim.
Ouais.
Alors, on y va pour la liste des 23.
Pour la liste des 23, pour le Maroc, on va la donner tout de suite. On a, par contre, ouais, on a juste une petite information à donner avant de prévenir les fans du football marocain. Il y a Boufal qui est absent. Ça reste effectivement le grand absent de cette sélection. C'est assez surprenant parce que. Même si effectivement, en vue de sa saison, il n'a pas fait énormément de rencontres, mais ça reste quand même.
Il était blessé.
Une surprise.
Bon, il était blessé beaucoup.
Ouais, mais il n'a pas beaucoup joué, il faut le reconnaître. Mais donnons d'abord
la liste des joueurs qui vont être. Ouais,
vous avez
convoqués.
Les 23, comme ouais. ça, au moins on parlera des absents après.
Alors, on aura Mounir, Bounou, Tagna Wati, Benassia, Saïs, Dacosta, Hakimi, Dirar. Banoun, Mendil, Aïd Benasser, Carcella, El Amadi, Belanda, Ziyech, Fajer, Boidouze, Amrabat, Boussoufa, Harit, El Kabi, Amrabat et Boutaïb. En réserviste, on a El Ajam, Mazraoui et En Nesseri.
Alors, l'homme à la chemise blanche donc, a dit, et par rapport à cette sélection, ouais. On ne sélectionne pas toujours les 23 meilleurs. Mmh. On sélectionne un groupe de 16-17 joueurs. Ensuite, des gens qui sont capables de ne pas trop nous ennuyer pendant un mois et demi.
Ouais, c'est oui, mais ça, c'est une bêtise.
En fait, c'est tout.
Ça c'est une bêtise.
C'est tous les entraîneurs qui disent ça.
Oui, mais c'est pas tous. Si. Quand on prend les joueurs, c'est les meilleurs. Quand on fait une sélection, ce sont les meilleurs qu'on comprend. Et arriver à dire cette bêtise-là, que ce ne sont pas les meilleurs, je n'arrive pas à comprendre. On ne va pas à une colonie de vacances. Donc, il faut prendre ceux qui vont faire le boulot.
Là, il y a un problème dans cette liste-là. Un seul problème. J'ai un seul problème. C'est la présence de Bouhaddouz, l'attaquant du Saint-Pauli. Parce qu'il est remplaçant en deuxième division allemande et il le prend. Alors que, bon, Walid Azzaro est blessé, l'attaquant d'Al-Ahly. Il avait l'intention de le prendre, il n'y a pas de problème. Il a rappelé Bouhaddouz, mais Bouhaddouz n'a pas sa place parce qu'il y a un garçon qui s'appelle El Arabi. Qui est meilleur buteur du championnat au Qatar, qui est champion du Qatar, qui brille en Ligue des champions asiatiques, donc contre les clubs iraniens, par exemple. Ça va être le prochain adversaire du Maroc. Je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas Youssef El Arabi. Je prendre Bouhaddouz, ce qui ne sert à rien, qui est remplaçant en deuxième division allemande, j'arrive pas à comprendre. L'absence de Boufal, apparemment, c'est lié au comportement.
Et surtout à mes formes aussi.
Non, parce qu'il a pris Bouhaddouz qui joue pas. Donc non.
Mais oui, mais ça n'a rien à voir.
Non, si il est sur dans son truc de groupe, comme tu l'as dit, coach.
Oui, non, mais ça aussi c'est très important.
Boufal apparemment c'est un élément
perturbateur.
Oui, mais t'as un bon groupe et tu es
perturbateur.
Ouais, mais t'as un groupe, il y a une bonne ambiance. Je sais pas, ils vont jouer de la musique ou bien ils vont jouer aux cartes ensemble et après ils sont derniers de leur groupe on est content. Ouais, mais c'est un choix.
Oui,
moi ça me gêne pas d'un choix.
Il a ses choix.
Mais dire des bêtises après, c'est ça qui me gêne.
Mais quand même il a laissé tomber aussi ceux-là sont blessés, Walid Azzaou et Rachid Alioui.
Ouais, les pauvres,
super joueurs. Moi j'ai vu un but marqué par Alioui contre la Côte d'Ivoire où là où il dans l'axe, il fait l'enroulé dans la lucarne. Pauvre.
Ça, c'est étonnant.
Franchement, c'est. Et Mohamed Nahiri qui Azzaoui aussi, qui marque beaucoup de buts.
Azzaro, ouais. Azzaro, c'est l'avançant d'Al-Ahly.
Azzaou.
Azzaro, lui, c'est le joueur qu'il n'a pas pris qui est blessé. Hatzaru, en fait, c'est l'attaquant d'Al-Ahly. Et comme je le disais avant, coach, quand tu es étranger et que tu es titulaire, attaquant titulaire à Al-Ahly, ça, c'est énorme. Et
pas donné à tout le monde.
Voilà.
Coach, ouais, mais il est blessé.
Oui, mais
il
justement. Non, mais c'est ce que je dis. Coach Renard avait l'intention de le prendre. Malheureusement, il s'est blessé. Donc voilà, c'est un coup dur pour la sélection marocaine. Comme Alioui qui est blessé, qui a un autre coup dur pour la sélection marocaine. Il y avait Dirar qui était incertain. Nabil Dirar, heureusement. Heureusement, il était incertain, mais heureusement, apparemment, il est rétabli, sera à 100% pour la Coupe du Monde. Parce que lui, c'est un pilier de sélection-là. Un vrai pilier. Tout le côté droit, tout le flanc droit, il peut jouer arrière-droit et milieu-droit en même temps. Il a vraiment un gros bagage. Il a trois poumons, ce joueur-là. Et on le voyait avec Monaco, de toute façon, dans les matchs de Ligue des Champions, que ce soit contre la Juve, Arsenal. Ça a toujours été l'un des meilleurs dans les grands matchs.
Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que l'homme à la chemise blanche, notre cher Renard, a réellement la tête à ça avec tout ce qui se passe en extra-sportif, c'est-à-dire sa fille qui a failli être ou qui serait. Dans les yeux du cyclone.
Oui, mais c'est fini cette affaire, non ?
Pourquoi c'est fini ?
On attend le. Maintenant, c'est la justice qui s'en charge.
Oui,
après, j'espère.
Elle est vivante et donc c'est fini.
J'espère pour le coach Renard qu'il est tourné vers la Coupe du Monde, à mon avis. Oui,
Est-ce que ça ne perturbe pas
professionnel.
Moi, j'ai vu. Non, mais moi, j'ai vu qu'il a.
Bien sûr.
Non, mais moi, j'ai vu.
Il a pas communiqué.
J'ai vu un communiqué qu'il a fait concernant un peu sa fille où il disait. Qu'il était dégoûté parce qu'on ne croit pas sa fille et que vraiment, de toutes les façons, la justice allait trancher, etc.
Après, oui, moi j'espère et je pense qu'il est quand même focus sur le mondial. Après, ce qui touche de l'ordre du privé, évidemment que ça doit le bouffer quelque part. En plus, ça a l'air d'être un homme anti-intègre. Moi, je l'avais croisé du côté du Chan. J'ai discuté un peu avec lui et on sent que c'est quelqu'un de passionné. Qui aime son sport, donc je pense qu'il va être focus pour le mondial. Il est quand même dans un groupe où il y a l'Iran, le Portugal et l'Espagne, donc il a beaucoup à faire de ce côté-là. Après, il faut espérer que les joueurs lui rendront leur confiance. Et voilà, moi, je voulais juste dire un mot sur la sélection, coach. Moi, c'est El Kaabi qu'on avait vu découvert pendant le Chan et qui brille du côté de Barkhane. Et je pense que ce sera lui qui va mettre en pointe du côté du Maroc. Ce sera lui l'attaquant qui va faire jouer, à voir comment ça va se passer Boutaïd, sur les matchs amicaux, ou Boutaïd peut-être, ouais. C'est ça, ça joue entre les deux, mais je crois que El Kaabi
C'est bien parce que c'est du cru, et tu fais bien de le dire Christian, parce que c'est des joueurs locaux qui évoluent effectivement du côté de leur pays, dans leur championnat respectif, et pour certains, pour la plupart, là, ils ont réussi à convaincre le coach Hervé Renard, et on se souvient aussi pendant le Chan que Hervé Renard était venu. Christian nous avait informé effectivement en tant que correspondant depuis le Maroc, il nous avait informé que le coach Renard se rendait aux entraînements, se rendait dans les rencontres et il allait voir les joueurs pour justement échanger avec eux, leur donner des conseils, les observer, donc c'est vraiment intéressant.
Je suis ravi aussi de la sélection de
Mendil,
il est très très fort. Moi, je l'ai vu jouer à la CAN. Moi, je l'ai découvert à la CAN. Il était très fort.
Exactement. On avait flashé dessus. C'est bien. Il s'est remis de sa blessure parce qu'il avait une grosse blessure.
C'est celui qui joue à Lille.
Oui, qui joue à Lille. Exactement, arrière gauche. Et
il en a pris 5 là. Hein.
Ah oui, c'est la fin de saison. Lille, c'était une année noire de toute façon. Mais c'est un jeune. On l'a découvert pendant la CAN. Et vraiment, du côté du Maroc, que ce soit lui ou. Sans comparse de l'autre côté, Hakimi qui évolue du côté du Real Madrid, qui a peut-être joué la finale de la Ligue des Champions ce week-end. Il y a un renouveau, il y a des joueurs qui arrivent. Moi, je trouve que la sélection, dans l'ensemble, même si je suis d'accord avec Salim, pour moi, El Arabi aurait dû en être. L'équipe, la sélection, elle est quand même équilibrée. Ouais. Il y a du niveau, il y a un bon mélange de jeunes, d'anciens. Il y a de quoi faire. Et pour leur retour en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, je pense qu'ils ne vont pas passer inaperçus. Après, le groupe, il est relevé. Le groupe, il est dur.
Alors, justement, c'est juste pour vous informer que semaine prochaine, nous parlerons de la sélection du Sénégal et d'une autre sélection. Alors, celle-ci, on est sur le Maroc. Ouais. Et pour vous, quel sera l'objectif du Maroc ? Quand je dis objectif, je dis comment vous sentez la prestation du Maroc ? Pensez-vous qu'elle puisse franchir le premier tour ?
Alors, ouais, moi je suis convaincu. Alors, moi, il y a un match qui me fait peur, c'est le premier match contre l'Iran. Parce qu'il commence contre l'Iran. Alors, moi, je suis pas d'accord avec beaucoup d'observateurs qui disent il faut battre l'Iran, si on bat pas l'Iran, on est éliminé. Non, c'est faux. La dernière fois, en 2014, quand il y avait le Nigeria, moi j'ai un ami nigérian, Nigeria, Iran, Bosnie, Argentine. Premier match, Nigeria, Iran. J'avais dit à mon ami, un Nigérian. J'ai dit, écoute, le Nigeria risque de faire match nul contre l'Iran. Ils vont peut-être faire match nul, mais ça ne sera pas fini. Ils font match nul 0-0 contre l'Iran. Il y en a plein qui disent que c'est fini. Je dis non, le Nigeria va battre la Bosnie. Ils ont battu la Bosnie et après, ils sont sortis du groupe avec l'Argentine. C'est ce que je dis pour le Maroc. Même si le Maroc fait match nul contre l'Iran, il y aura un match contre le Portugal. Moi, je suis convaincu, je suis sûr certain que le Maroc ne perdra pas contre le Portugal.
Le Maroc ne perdra pas contre le
Portugal. Comme en 86, ils vont les battre. J'en suis sûr et certain, c'est mon pronostic.
Non,
c'est enregistré.
Salim, on ne joue pas à la PlayStation. Hein.
C'est mon pronostic. Ouais. Le Maroc joue pas à la PlayStation quand ils battent le Portugal en 86.
Moi, ce qui me rassure par rapport au Maroc, c'est que le Maroc n'a jamais déçu à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que depuis 1970... Et on oublie vite dans le football africain, où les supporters et tout, on oublie très vite. Le Maroc en Coupe du Monde a toujours été brillant. Donc moi je compte toujours sur eux. C'est des combattants, c'est des, au niveau de l'Afrique du
Nord.
Ils ont
un entraîneur filou, quoi.
Ils sont filous et ils sont bagarreurs. C'est comme les Égyptiens par exemple. Donc moi je compte sur eux.
D'accord.
Première équipe.
Moi ça fait c'est simple, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas participé à un mondial. Dernière fois, c'était en France, lors de la Coupe du Monde 1998, remportée par Zizou, Zinedine Zidane.
Mm-hmm. Mais, s'il ne l'avait pas placé.
Ah, il faut la placer, il faut la placer la ligne. Et deux têtes de Zizou en finale. On la replace encore une fois. Non, mais pour venir sur cette sélection marocaine, c'est important de le dire. On se souvient, coach Lamine, de leurs deux victoires ces derniers temps, blague à part, contre la Serbie, contre l'Ouzbékistan, en match amical. Ils ont remporté leur match contre la Serbie 2-1 et contre l'Ouzbékistan, je ne sais plus c'était quoi le score, mais
c'est 2-0, je crois.
Ils ont fait 2-0. Donc il y a cette dynamique-là de la préparation d'Hervé Renard qui est sérieuse. Il a effectué une sortie du côté du Chan pour aller voir les joueurs locaux et observer s'il pouvait récupérer d'autres joueurs, ce qui veut dire qu'il est vraiment à 300% dans sa Coupe du Monde. Et malgré effectivement, comme le disait tout à l'heure Christian, les faits divers qui ont pesé sur un garçon lors d'une émission, on va pas la citer, une chaîne de télé qu'on va pas citer.
Oh si, c'est TF1.
Non, on cite pas, pas de publicité. Et qui remet un petit peu en doute et bien la parole de sa fille par rapport à un viol qui a eu lieu. Donc je pense que psychologiquement, on sait pas. C'est vraiment conditionnel qu'il faut donner qui aurait eu lieu effectivement. Donc on sait pas. Il reste concentré. Hervé Renard a fait sa liste, il a fait son choix. Et même si effectivement sur une petite poignée de joueurs, on émet peut-être des doutes, on émettrait des doutes, je pense que Hervé est bien parti avec le Maroc et ils ont toutes leurs chances. Alors, après, c'est vrai qu'il y a dans leur poule le Portugal, comme l'a dit Salim tout à l'heure, l'Iran,
l'Espagne.
Et l'Espagne. Portugal, ouais. Champion d'Europe en titre. L'Espagne, deux fois champion d'Europe en titre,
oui.
deux fois champion d'Europe sur ces 10 dernières années. L'Iran, c'est une bonne sélection donc du côté de l'Asie. C'est la meilleure d'Asie pour le moment.
Le groupe, il est dur.
C'est un des groupes le plus relevé, difficile. Peut-être.
Oui, mais le groupe était dur. Mais alors, en 86, alors, il y avait le Portugal, la Pologne et l'Angleterre. Le Maroc était premier de son groupe. Alors.
Bon, il y a trois joueurs de Ligue 1 qui sont dans la liste des 23. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Mendil, vous avez parlé de Mendil qui est à Lille, qui en a pris 5 ce week-end. Youssef Al-Aïk Benacer de Caen.
Oui.
Très bon joueur.
Très bon joueur. Walid El-Hajam d'Amiens.
Walid El-Hajam, je crois qu'il est réserviste. Oui, il est en réserve.
Oui, c'est ça, il est
Hajam, en réserve. Mais il faudrait raconter sur Hakim Ziyech, le meneur de jeu de l'Ajax Amsterdam. C'est lui. C'est lui qui va être le stratège. C'est de lui que tous les ballons vont passer. C'est de lui que toutes les attaques vont commencer. Je pense que Ziyech, il va poser énormément de problèmes aux défenses adverses lors de ce mondial-là. Et il l'a prouvé en éliminatoire d'ailleurs. C'est grâce à lui que le Maroc en partie se qualifie.
Alors, donc, messieurs, si je dois résumer, vous pensez que le Maroc va sortir de ce groupe?
Non.
Christian Chango?
Non.
Non.
Oui, le Maroc va être en 8e de finale de Coupe du Monde.
Oui, le Maroc passe le groupe.
Hakim.
Le Maroc aurait ses chances.
Non, mais lui, il faut se
mouiller. Il faut se mouiller là-haut.
Allez, oui, il passe le premier tour avec, je pense, ça sera difficile. Ça va pas être une partie de plaisir, mais ils peuvent passer effectivement.
J'ai dit non, coach, mais j'espère me tromper. J'espère sincèrement me tromper.
Hein. Attention, c'est Ramadan, il faut pas mentir. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein.
Sinon, ça sera Big Mac.
Oui. Allez, cette fois-ci, on va aller pour les championnats européens.
Espagne.
Et puis c'est parti.
la Liga espagnole sur Africa numéro 1.
Alors, en attendant d'avoir notre correspondant, bien sûr, parce que comme d'habitude, hein, elle l'a oublié.
Il y a un décalage horaire. C'est le même fuseau. Ouais.
Donne-lui le micro, la pauvre. Donne-lui le micro.
Qu'elle se défende là.
Elle a le conducteur, elle a rien. Et puis voilà quoi. Donc c'est. Messieurs, alors, Christian Chango, on peut parler déjà des résultats avant d'avoir.
Ouais, bien sûr, on va donner les résultats de la dernière journée de la Mejor Liga del Mundo selon Adama. Celta Vigo, Levante, 4 buts à 2 pour le Celta. Leganés a battu le Betis Séville, 3 buts à 2. Séville, le FC Séville a battu Alavés, 1 but à 0. Malaga, Getafe, 1-0 pour Getafe. Las Palmas, Gijón, 2 buts à 1 pour Gijón. 2 buts partout entre Villarreal et le Real Madrid. 2 buts à 1 victoire de Valence face au Deportivo La Corogne. Athletic Bilbao, Espagnol Barcelone, 1 but à 0 pour l'Espagnol. 2 buts partout entre l'Atlético Madrid et Eibar. Et le FC Barcelone a emporté 1 but à 0 face à la Real Sociedad. Donc on le savait déjà, le FC Barcelone est champion d'Espagne avec 93 points. L'Atlético Madrid, tout juste champion d'Europe, deuxième du championnat. Le Real, troisième. Valence, quatrième. Et dans les équipes qui descendent, le Deportivo La Corogne, Las Palmas et Malaga.
Alors, messieurs, on s'y attendait. Hein. De toute façon, c'était fait depuis longtemps avec Barcelone. Hein. Mais ce qui a marqué cette fois-ci, et je crois que notre cher correspondant va nous le dire, c'est le départ de notre ami Iniesta qui a fait des choux dans les gardes.
Exactement. Applaudi sur tous les terrains du monde. J'ai jamais vu un public le siffler adverse, même quand il sortait. Même au Bernabéu, tout le monde l'applaudissait toujours. C'est un grand joueur, très fair play. Et il va manquer au FC Barcelone. Il va beaucoup leur manquer.
Ben, ils ont d'autres joueurs. Hein.
Ils ont d'autres joueurs, c'est vrai, coach. Mais ça fait, là, sur les dernières années, ça fait comme une page qui se tourne du côté de Barcelone. Où il y a eu Puyol qui est parti, Xavi, maintenant Iniesta. Donc, c'est encore une fois un nouveau cycle. Mais tant qu'il y aura Messi, de toute façon, ils sont tranquilles. Mais oui, tu as raison de parler d'Iniesta. C'est un joueur qui va manquer en Espagne et au foot mondial. Mais bon, on sait où sa carrière n'est pas finie, il a encore le mondial et puis il va aller prendre quelques pesetas du côté de la Chine.
Mais je pense que quand même ils vont trouver hein, de toutes les façons. Parce que celui qui l'a remplacé et qui venait un peu de Liverpool a à peu près les mêmes caractéristiques. Et donc je pense que quelque part, même si c'est le roi de la passe,
oui, en plus
Iniesta c'est le roi de la passe.
Oui, c'est le roi de la passe, mais Messi vieillissant et joue un peu ce rôle-là actuellement, donc. Au fur et à mesure, Messi va prendre ce rôle à bras le corps.
Bon. Ah, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est un joueur qui se bonifie, c'est comme le vin. Iniesta.
Ta fourre là.
Ah non. on donne son point de vue, coach Lamine. C'est une expression qu'on connaît. Non, c'est vrai que Iniesta. Andrés Iniesta. Ah non, non. Ramadan, Lamine. Non, c'est Andrés Iniesta, c'est comme le vin, on le dit. Il s'est bonifié chaque année. Là, il part effectivement en Chine. On est triste qu'il parte là-bas parce qu'il a encore plein de choses à apporter au football européen, au football espagnol. Adama Sorabé nous le dira mieux que nous, puisqu'il le connaît bien.
Alors, il est là, Adama Sorabé, oui.
Oui, que je dis moi juste une dernière chose avant de donner la parole à Adama. Je trouve que c'est intelligent de la part d'un joueur de savoir partir quand on est tout en haut. Pas faire la saison de trop, puisque ça fait longtemps qu'il y est, il est dans un fauteuil, il aurait pu jouer encore.
Vous pensiez à qui? À Patrice Evra?
Ah non, je ne dis pas de nom.
Adama, c'est à vous, comment ça se passe, madame?
Buenas noches, hombres. Buenas noches, coach Lamine, Hakim, Christian, Ludo Emily, Hélène, et à toutes les auditrices et auditeurs de la radio continentale, la radio Africa numéro 1. Bienvenue dans la Mejor Liga del Mundo, voilà. Avec la tristesse du départ du maestro Iniesta.
Bon, alors, comme on a parlé d'Iniesta, il est parti, ça c'est son problème, parce qu'à aucun moment il ne va nous donner un peu ses primes de match. Parlons un peu du Real de Madrid qui est en train de se préparer. Comment ça se passe là? On est à quelques jours, ne serait-ce qu'à quelques jours de cette finale face à Liverpool. Est-ce que la tendance de la peur de Zinedine Zidane a changé ou pas?
Non, Zinedine Zidane, la tendance de la méfiance n'a toujours pas changé. ça évolue. Et je crois que peut-être cela peut être un atout pour le Real de Madrid qui va avec un peu la peur dans le ventre. Mais je peux vous dire, si vous suivez un peu les quotidiens espagnols qui parlent aujourd'hui de cette finale, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup puisque je peux vous dire que 60% des Espagnols pensent que le Real sera sacré. Et 40% ou 45% pensent que Liverpool va être sacré cette saison face au Real de Madrid. Mais attention, on a vu un Real de Madrid qui s'est déplacé à Villarreal et dans le but qui a été gardé par le fils de Zinedine Zidane.
Par Lucas, Zidane, oui.
Voilà. Et
c'est Lucas qui a joué. Lucas, il a joué
Oui, il a joué, oui, c'était le gardien titulaire face à Villarreal. Ouais,
ouais, mais son père qui le favorise, là.
Voilà, non, mais Coach Lamine, ça veut dire que s'il est le troisième gardien du Real de Madrid, ça veut dire qu'il a quelque chose dans le sacoche. Donc, on souhaite du courage et bonne chance pour ce jeune gardien. Mais bon, je vous l'avais dit la semaine dernière que l'Atlético de Madrid venait sans peur pour chercher sa coupe et repartir à la maison. Eh bien, ça a été fait. Mais tandis que le Real... Et moi, personnellement, en tant qu'observateur du football espagnol, je ne me mouille pas pour le Real de Madrid. Je pense que Liverpool a toutes les cartouches. Si Liverpool joue son football, le Real ne pourra pas venir à bout de Liverpool lors de cette finale le 26 mai prochain.
Alors, juste avant que je vous lâche avec les gars du plateau, Dembélé, comment il va?
Dembélé, c'est...
C'est mort pour la Coupe du Monde?
Je peux vous dire que Dembélé, c'est un phénomène de blessure cette saison. Du côté de Football Club de Barcelone, on a beau lui donner sa chance. Mm-hmm. Hein, c'est un garçon qui était bien revenu. Niveau technique, niveau vitesse, il n'était pas mal. Ben, il s'est blessé. Je peux vous dire qu'il lui faut au moins 10 à 15 jours de récupération. Mm-hmm. Donc, je ne saurais vous dire du côté de la France... Si c'est mort pour la Coupe du Monde, mais c'est mort pour les matchs amicaux et des préparatifs pour le Mondial. Mmh. Oui, ça c'est sûr. Il sera peut-être là, mais il ne pourra pas disputer les matchs amicaux. Mais dans une quinzaine de jours, il sera apte.
Bon.
Voilà, c'est ce que dit le médecin du Football Club de Barcelone.
Ben, vous restez avec nous, on va passer une page de pub et on revient tout de suite.
La Liga espagnole sur Africa numéro 1.
Sur la radio africaine, sur le 107.5 à Paris, à Melun sur le 92.3 et à Mantes-la-Jolie sur le 87.6 avec Christian Chango, avec Salim Lanouni, avec Lodouin Willy Dorkonou et Hakim Djellouat. Messieurs, sans oublier que nous avons Adama Sourabié, notre correspondant depuis l'Espagne, pour finir avec la Liga. Alors Adama.
Oui, Coach Lamine. Oui, Coach Lamine.
Une question de Christian Chango.
Adama, bonsoir. Je voulais te demander, du coup, donc Madrid, l'Atlético a déjà gagné la finale de la C3. Là, il y a la finale samedi. Est-ce que tu penses que Madrid va être la capitale du foot européen cette saison? Ou alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour toi, tu sais, 60-40?
Mais déjà, Christian, ça fait 5 ans que Madrid est la capitale du football mondial. Voilà. Et ces équipes sont toujours quand même arrivées en finale de grandes compétitions. On a même vu deux finales successivement qui se sont jouées entre les deux clubs de Madrid. Mais bon, quand on parle de la capitale du football mondial, c'est vrai que l'Atlético a déjà sa coupe en poche. Maintenant, le Real de Madrid, si jamais le Real venait samedi à être sacré,
trois fois de suite, c'est historique. Hein.
Voilà, trois fois de suite. Et en plus, les deux coupes, la Europa Liga et la Champions, on dit bravo, chapeau à Madrid, mais chapeau à la Liga espagnole.
Est-ce qu'ils vont ils vont faire une statue Zidane à Plaza Cibeles ou pas, à ton avis?
Comme Rocky Balboa.
Non. Ça, c'est trop tôt pour parler
du statut,
voilà. C'est vraiment éphémère. Ce n'est pas d'actualité en ce moment.
C'est pas la priorité de Zizou.
C'est un monsieur quand même, aujourd'hui, qu'on peut dire qui a marqué la vie des Madrilènes en tant que footballeur, aujourd'hui en tant que coach de cette équipe.
Alors, voilà. Messi vient ou pas, alors, finalement?
Messi, à la finale, Messi, c'est un garçon qui est très fair play. Et aujourd'hui, du côté de Barcelone, c'est le départ de Iniesta. C'est vrai que moi, je lui rends hommage. Si vous voyez un peu sur mes pages, je lui rends hommage. J'ai vu Iniesta quand il était la première fois titulaire avec le Football Club de Barcelone. Et il y a 3 semaines aussi, je l'ai vu. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'il n'a pas eu dans le football en jouant pour le Football Club de Barcelone, c'est ce qui va toucher. On parle d'un cachet de entre 20 et 25 millions, quoi. Tu vois, c'est énorme.
Oui, ouais, mais ce, voilà. ce qui est dommage, c'est que quand même, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu le Ballon d'Or.
Vous savez, c'est ça aussi le problème. L'actualité cette semaine, oui, mais... il y a France Football qui s'est excusé auprès des
Iniesta. Ah, ben, enfin. Pourquoi?
Les Ballons d'Or sont devenus. Et Adama?
Selon vous.
Adama?
Bah, bien sûr, parce qu'ils ne lui ont pas donné.
On compte les statistiques pour donner les ballons d'or maintenant. Donc, le football n'a rien à voir avec les statistiques. Donc, qu'est-ce qu'on va donner à...
De toute façon, Adama, si, pour ma part, c'est vrai qu'il n'a pas eu le ballon d'or, mais bon, il pourra, quand il regarde l'armoire à trophées chez lui, il est quand même serein, il peut bomber le torse, parce qu'il a tout gagné.
32 titres.
Il a tout gagné. En club ou en sélection, il a tout gagné. Donc,
Non, mais de toute façon, Adama, de toute façon,
Salim.
Salut, Adama, ça va? C'est pour te dire qu'il y a des joueurs qui savent que le Ballon d'Or ne veut plus rien dire. Un joueur comme Thierry Henry, il a dit qu'il n'a jamais gagné le Ballon d'Or, mais il s'en fichait. Celui, ce qui l'importait, c'était les titres collectifs. Parce qu'un Ballon d'Or, quand en 2010, tu le donnes à Messi, alors qu'il met 0 but en Coupe du Monde, qu'il fait une Coupe du Monde catastrophique, et qu'il se mange 4-0 contre l'Allemagne en quart de finale de Coupe du Monde, tu lui donnes le Ballon d'Or, ça n'a strictement aucun sens.
Ouais, mais
en
Salim,
2012, le Mondial prime. Le Mondial prime dans le football.
Non, mais Salim.
Le Mondial, c'est la compétition la plus haute dans le football. Mais et la sélection, c'est ce qu'il y a de plus haut dans le foot.
Mais
pas plus haut que ça.
Messi, même quand il est malade, il est bon.
Oui, on a vu
ça. Pas l'Argentine.
J'ai remarqué ça, coach. J'ai remarqué ça quand j'étais au Mondial en 2014 au Brésil. Moi, j'y étais. Mais quand on a remis le meilleur joueur à Messi, j'ai compris ce que tu veux dire.
Mais voilà.
Messi n'était pas le meilleur joueur de cette compétition.
C'était même pas le meilleur joueur de son
équipe.
Restons sérieux. C'était même pas le meilleur joueur de son équipe. Avant d'être le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ah oui.
Alors. Bon, je coupe. C'est pas grave. Salut, Adama, vous restez avec nous. On va aller du côté de la Ligue 1. C'est parti.
Le championnat de France de Ligue 1 sur Africa numéro 1.
Messieurs, ça y est, c'est fini. Donc, de la tête aux pieds.
Exact. Hein,
en bas, c'est fait. En haut, c'est fait. On va revenir un peu sur le match de Marseille. Donc, tout de suite, vous verrez que ce sont les supporters du PSG qui vont nous appeler comme du mot de bingue. Alors, messieurs.
On va donner les résultats. 38e et dernière journée de la Ligue 1 saison 2017-2018. Caen PSG 0-0. 3 Monaco. 3 buts à 0 pour Monaco. Lyon-Nice 3 buts à 2 pour Lyon. Marseille-Amiens 2 buts à 1 pour Marseille. Match nul 1 but partout entre Rennes et Montpellier. Victoire de Bordeaux à Metz 4 buts à 0. Victoire de Saint-Etienne face à Lille 5 buts à 0. Nantes bat Strasbourg 1 but à 0. Toulouse bat Guingamp 2 buts à 1. Et Dijon finit en beauté avec une victoire 2 buts à 1 face à Angers. Et on va donner le classement tout de suite avec le PSG, bien sûr, premier et champion. Monaco, deuxième. Lyon, troisième. Marseille, quatrième. Rennes, cinquième. Bordeaux, sixième. Saint-Etienne, septième. Nice, huitième. Et en bas du classement, Toulouse, 3. Mais Metz ferme la marche. Et Lille, contre toute attente, réussit à se sauver.
Alors, messieurs, on commence par le bas ou on commence par le haut? Vous enlevez quoi, là? Le haut ou le bas, là?
Quel haut y alors, compris oui, le PSG, alors, non
le PSG, on l'a vu, mais
ouais,
bon...
ça compte pas, ils ont fini en roue
libre.
Oui,
mais ils ont fini en roue libre, mais est-ce que, la question que je vais poser, est-ce qu'ils ont faussé le championnat?
Non, ils n'ont pas faussé le championnat, ils ont joué le championnat, donc c'est les autres équipes qui n'ont pas voulu mettre en danger bon, le PSG.
Quand on voit, Doyen Uli, match Caen PSG, avec la prestation de l'équipe du PSG, d'ailleurs, ce qui fait que plein d'équipes ont dénoncé cela. Ouais. Est-ce que vous pensez réellement? Moi, j'ai regardé le match, je n'ai pas reconnu le PSG depuis certains matchs-là.
Oui, mais le PSG...
Donc, est-ce que réellement, après avoir gagné ce championnat, ils n'ont pas faussé, fossé ce championnat-là.
Oui, mais le PSG, beaucoup d'équipes, quand ils entendent le PSG, ils n'ont pas envie de jouer contre le PSG. J'ai vu à chaque fois qu'une équipe française monte un peu son niveau, a un peu de courage, ils tiennent tête au PSG. On a vu Strasbourg, on a vu Marseille.
Là, sur ce match de Caen, ouais. C'était pas un match du tout.
Non, mais c'est la fin. Ils ont gagné, ils ont tout gagné. Qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Il faut se poser la question.
Il faut se poser la question, oui.
La question est bonne et mérite d'être posée. J'aurais tendance à dire qu'ils ont un peu faussé le championnat, mais dans un autre côté, je dis non, puisque Paris, depuis qu'ils ont été éliminés et depuis qu'ils sont champions, il leur restait que la Coupe de France. Sinon, ils jouaient en claquettes chaussettes, ils ne voulaient pas se blesser pour la Coupe du Monde. Mais c'est surtout toutes les journées d'avant, en fait, où les équipes n'ont pas fait le boulot, où il y avait des points à prendre, où ces équipes-là ne sont pas venues jouer au parc, ils sont venus faire des selfies, ils ne sont pas venus jouer au foot. Et à la fin de saison, ils viennent dire que Paris fausse le championnat. Il y avait des points à les chercher avant. Là, il faut féliciter Caen, par exemple, ou Guingamp la dernière fois, qui va récupérer des points au parc, puisque les joueurs sont déjà tournés vers la Coupe du Monde. Donc, la question est légitime, mais pour moi, le championnat n'est pas faussé, puisque ces équipes-là, ils ont eu 6 mois avant pour taper le PSG ou pour aller chercher des points, ils ne l'ont pas fait.
Il y a 6 mois, c'était coach. Compliqué de battre le PSG.
Non, coach, ça fait 2 ans que le PSG joue avec un coach moyen. C'est-à-dire que
moyen dont vous parlez, il va peut-être signer à Arsenal.
Une grande équipe moyenne.
Moyen plus moyen égale moyen.
C'est mathématique.
De toutes les façons, c'est une équipe qui est sûre qu'elle est de la même valeur que le PSG. Hein.
Arsenal.
Mais c'est ce qu'on dit.
Est-ce que PSG n'est pas moyen en Europe?
Moi, ils sont super moyens.
Mais c'est ce qu'on dit.
Tout est moyen. Donc moyen plus moyen.
Quand tu t'arrêtes en 8e de finale de la Champions League, t'es moyen.
Mais les gars, c'était le Real Madrid, double champion d'Europe, peut-être triple champion d'Europe.
Il fait une Luis Fernandez, le coach. Il sort Cavani pour faire entrer Meunier. Ça me rappelle contre la Corogne quand il sortait Okocha, Benarbia pour Janowski, Rami Santana. Il y a eu 4-3 remontada.
Mais on verra bien ce qu'il va réaliser. Pour le moment, vous le jugez, vous l'avez pas encore vu. Arsenal. Laissez-le.
Non, je parle de Paris. Je parle de ce qu'il a fait à Paris.
Mais ce qu'il a fait à Paris. Vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas fait de comparaison.
De toute façon, ce n'est pas signé. Ce sera peut-être Arteta.
Peut-être. Mais je veux dire, pour le moment, avant qu'il n'arrive à Paris, Paris n'avait rien gagné. Vous avez gagné quoi?
Non, mais lui, en Ligue des Champions, il était ridicule. Lui, en Ligue des Champions, il était ridicule. Il n'a jamais réussi à passer l'épaule avec Séville en Ligue des Champions.
Il a gagné des matchs. Il a gagné.
L'Europa League. Il n'a pas passé l'épaule.
Mais je te parle de l'Europa League. Mais vous, aujourd'hui, au PSG, vous n'avez même pas l'Europa League.
Mais parce qu'ils
y
sont pas.
Vous avez gagné ça en 1953.
Parce qu'ils y sont pas.
Avec Fernandez.
Mais s'ils y étaient.
Non, on a gagné la C2 quand même.
Mais s'ils y étaient.
C2, on n'en parle plus depuis des années.
On est enfin, bref. À jamais les premiers, nous.
Non. Parlons peu, mais bien. Je veux dire, l'équipe. On était sur. Est-ce que le PSG.
A faussé le championnat.
On était avec Doyen Willy.
Oui, ils n'ont pas faussé. Ils ont joué le championnat. Donc, moi, j'ai toujours dit que c'est les autres qui n'ont pas envie de faire du mal au PSG. Ce n'est pas une question de sous. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont jouer quelque part, les gens disent ouais, mais ils ont un budget. Ce n'est pas le budget qui joue. On a vu des clubs, ils n'ont pas de budget. Ils ont fait des choses. Et ils ont fait la finale contre les Herbiers, ils n'ont pas de budget. J'ai un joueur là-bas, ils sont payés au SMIC. Donc, le problème des clubs ici en France, et quand ils ont le PSG, ils commencent pas à pleurer avant le match.
Mais je suis d'accord. Les clubs ont le droit d'avoir cet avis-là, de penser que le PSG, en levant le pied, n'aide pas au jeu des chaises musicales. On sait que en bas du classement, il y avait beaucoup de points qui se jouaient, c'était serré entre le 17e et le 20e. Donc ça n'aide pas. Mais après, on l'a vu la semaine dernière, Guingamp qui fait match nul contre Marseille. Donc, c'est relatif.
Bon, enfin, de toute façon, vous n'êtes pas d'accord. Ok, donc ce qui fait que Caen va jouer le barrage ou quelque chose comme ça. Caen se maintient. Alors qu'il y a d'autres équipes comme Toulouse.
Il y en a qui va jouer le barrage, donc avec le système qui a été mis en place. Donc, Toulouse va jouer le barrage. 3 MS, c'est sûr qu'ils descendent. Et le 18e joue le barrage face au 3e de la Ligue 2 pour savoir...
Aller-retour.
Donc, moi, ce système-là, personnellement, je trouve ça bien. Ça fait du challenge. Ça rajoute des matchs
injuste,
un peu. Mais
c'est injuste.
D'accord.
Non, ouais. C'est injuste. Non, dans le barrage, c'est injuste que le match retour soit chez le Ligue 1. J'aurais préféré match retour chez le Ligue 2.
Parce que
le Ligue 2, il finit 3e. Alors que l'autre, il est relégable.
Bon, maintenant, parlons du ventre mou. On a quand même, après ces équipes qui ont réussi in extremis, tu ne parles pas de Lille
qui était dernier toute la saison quasiment.
une équipe quand même a été performante, c'est celle de Bordeaux.
Bordeaux, oui, ils se sont, sur la fin, ils ont très bien commencé. Il y a eu un vrai trou d'air. Et depuis que leur coach uruguayen est arrivé, il semble qu'il y a du mieux du côté de Bordeaux. Et au final, ils réussissent à finir sixième, à se qualifier. Donc c'est fort quand même, puisqu'ils étaient vraiment au fond du trou là pendant un moment. Et je ne les voyais pas finir au-dessus de la dixième place.
Il y a deux équipes quand même, Doyen Willy, deux équipes qui ont été vraiment performantes. C'est l'équipe de Saint-Étienne et l'équipe de Bordeaux.
Oui, oui
c'est dû peut-être à leur... à leur recrutement, ouais, etc. etc.
Au mercato d'hiver, ils ont bien vu, donc ça les a aidés énormément. Donc ils ont fait un bon recrutement. Donc je dis aussi au niveau de l'OM aussi pour leur recrutement aussi.
Justement,
ça a aidé énormément l'OM pour son recrutement parce que recruter le Luis Gustavo, ça a aidé beaucoup l'OM.
Alors justement, l'OM, on va en parler. Il pourra rappeler Jomo Debang.
Oui, Marseille, hein, finit quatrième.
Alors, oui.
Marseille, oui, qui finit quatrième. Bah, j'ai été le premier à, entre guillemets, un peu chambrer les Marseillais amicalement quand on parlait du Champions Project. Le début avec Rudy Garcia, ça a été compliqué, mais ça a pris forme petit à petit. L'équipe, je trouve, par rapport à l'équipe de Bielsa qu'avait Bielsa avec Marseille, avec les frères Ayou, avec Imbula, avec Mendy, où il y avait plus de qualité. Bah, là, il y avait moins de qualité intrinsèque des joueurs, mais c'était plus une équipe et... Ils sont à leur place, vraiment, ils sont à leur place. Ils peuvent avoir un petit regret, mais ils ont fait une belle saison en Europa League. Ils finissent quatrième. Ils sont à leur place, à leur niveau, et il faut maintenant capitaliser là-dessus pour préparer l'an prochain.
De toutes les façons, tout le monde parle de Marseille en se posant la question, est-ce qu'ils ont réussi leur saison ou pas ? Peut-être qu'ils ont réussi leur saison sur le plan émotionnel, comme le dit partout et tout ça.
Ouais. La déception, elle est là, à la mine. C'est vrai que...
Au niveau des...
Au niveau de la place là du podium, la quatrième place, elle laisse un goût amer. Pourquoi ? Parce qu'ils font effectivement une bonne deuxième partie de saison. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement leur parcours en Coupe d'Europe. Là, on les a vus se transcender. On a vu que avec leurs moyens, avec les joueurs qu'ils avaient effectivement, et il y a pas des moindres. Hein, on a des bons joueurs. Hein, on a pu les voir sur certaines rencontres, effectivement, sur cette fin de saison, apporter vraiment des choses intéressantes et de la force mentale, comme l'a souligné Christian, mais pas seulement. Il y a eu aussi un entraîneur qui a réussi à motiver des troupes, à créer de la cohésion dans le groupe. Et ça, en tout cas, on l'a senti. Et moi, je trouve que c'est une bonne quatrième place. C'est vrai qu'on aurait aimé voir Marseille troisième, deuxième. Là, pour l'instant, c'est une bonne quatrième place. Et leur parcours en Coupe d'Europe, c'est juste... C'est juste énorme. Mais maintenant, c'est effectivement là. On oublie souvent le deuxième et fallait effectivement gagner ce titre, mais c'était pas une main.
La quatrième place, vous trouvez pas que Marseille est à sa place ?
Oui.
Ah si, moi c'est ce que je disais.
Pas à sa place, mais c'est une très bonne place. Parce que quand on voit comment Marseille a débuté le championnat, Marseille a mal débuté le championnat et tout le monde se moquait même de Marseille. Donc ce club-là qui a deux joueurs, en la personne de Payet, pardon, et de Luis Gustavo. Ils ont deux joueurs valables. Arriver à être quatrième et à être en finale d'une Ligue Europa, mais c'était un exploit. Donc, c'est un bon parcours de Marseille cette année.
Est-ce que Marseille devrait continuer, non pas à jouer le titre de Ligue des Champions, mais plutôt jouer l'UEFA ?
Marseille devrait avoir l'ambition secrète d'aller chercher le plus haut possible la Ligue des Champions, mais il faut clairement...
Mais si c'est pour avoir zéro point sur la Ligue des Champions...
Oui, comme ils avaient fait la dernière fois, ils avaient pris des rousses par Dortmund, Naples et Arsenal, ils avaient fini 6e, 4e avec zéro point, ils sont à leur niveau, coach. Et l'Europa League, c'est un trophée à aller chercher. L'Atlético Madrid, qu'on allait leur demander à Fernando Torres qui termine sa carrière à l'Atlético, s'il n'est pas content de soulever la C3, donc c'est un trophée à aller chercher... Mais Marseille, quand même, ils sont quatrième.
Il faut voir les joueurs qu'ils ont.
Ils ont 77 points.
Ils n'ont pas de joueurs. Ils n'ont que deux joueurs.
Ils ont 77
Comment
points.
Comment ça, deux joueurs ?
Deux joueurs. Parce que dans ce club-là, par exemple, quand on voit Valère Germain et son occasion en première mi-temps de la finale, s'il ne marque pas ça, c'est que Marseille n'a pas de joueurs.
Mais pourquoi deux joueurs ?
Ouais, mais parce qu'ils n'ont pas de joueurs, techniquement. Le problème de Marseille,
c'est
quoi ?
C'est qui les deux joueurs ?
Mais il y a Luis Gustavo et Payet que je viens de citer.
Mais Payet, il a joué 6 mois.
Mais 6 mois, mais c'est grâce à Payet qu'ils sont arrivés à faire tout ça.
Il y a Mandanda aussi, quand même, le soldat.
Oui, mais ils sont trois, mais comme lui, il n'est pas dans le champ. Mais dans le champ, il n'y a que deux.
Il y a Sakai.
Oui, mais Sakai aussi. Mais il a joué peut-être que quand Sakai est beaucoup. Après, on ne l'a plus revu. Donc,
mais bon, Marseille, pour avoir des regrets, parce qu'ils finissent à 1 point de Lyon, 77 points pour le 4e, 78 pour le 3e, ça fait quand même beaucoup de points. Donc, au final, c'est une belle saison pour Marseille. Et moi, oui, je te redis, coach, ils sont à leur place.
Oui. Ils sont à leur place.
Ils n'ont battu aucun gros. Ça, il faut quand même le noter. Mais ni ouais, Monaco.
C'est ce que les gens disent,
nice.
Mais bon.
C'est vrai. Ni Monaco, ni Paris, ni Monaco, ni Lyon. Aller-retour. Donc, c'est ça.
Ça fait que 6 matchs après. Donc, il reste, si tu tapes tous les autres et que tu ne vas pas aller trois plus gros.
Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même pour un club. Après, il y a Rennes, 5e, qui est pas mal, qui retrouve l'Europe. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas. Qui s'était pas requalifié pour l'Europe, donc c'est
Sabri Lamouchi, oui. Beau travail.
Et il y a une équipe qui a fait une belle saison malgré sa place de 11e, c'est Dijon. Je trouve que Dijon, on les voyait relégables, jouer le maintien. Finalement, ils ont un bon coach qui a été nominé pour le titre de meilleur entraîneur de l'année. Franchement, Dijon, ils pratiquent un bon football. Après, il y a des Africains intéressants dedans. Tavares, international capverdien. Il y a Sliti, qui est tunisien. Il y a aussi quelques joueurs intéressants. Qui sont au milieu de terrain, comme le frère Amalfitano par exemple, qui est pas mal, Romain Amalfitano. Il y a des bons petits joueurs à Dijon qui sont pas mal. Il y a Adadi aussi, l'arrière-gauche, qui est tunisien aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Et j'espère les revoir au même niveau l'année prochaine.
Adama, est-ce qu'il y a des joueurs africains qui sont en vue pour la Liga l'année prochaine?
Oui, coach Lamine, pour le moment, on vient de clôturer la saison. Je crois que l'Espagne a eu quand même l'orientation de la détection du côté de la Ligue 1, surtout avec l'arrivée d'un certain Neymar et puis Unai qui était sur place. Moi, je suis optimiste. Je pense que la saison prochaine, on risque d'avoir quand même un certain Salah que j'y rêve de voir au niveau de la Liga parce qu'il est pisté par le Real de Madrid. Et aussi, du côté de la Ligue 1, je pense que des équipes comme Séville, ils ont l'habitude de venir chercher du côté de la Ligue 1. Donc, je crois, il est temps que le nombre des Africains s'augmente au niveau de cette Ligue. Ouais.
Mais cette année, il y en a eu à peu près combien? On peut dire combien il y en a eu à peu près?
Il y a le compatriote de Doyo Willy au niveau de Getafe, Guinée. Et puis, du côté de Deportivo de la Corogne, il y a eu Assamoah qui est arrivé, mais bon, l'équipe était déjà à mal. Il y a aussi
Thomas Partey.
Voilà. Et puis il y a Boateng du côté de Levante. Donc, quand même 5 à 6 personnes, quoi. Et il y a l'Est international sénégalais, Diop, qui a
Koulib Diop
aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très peu par rapport à 5 ans, quand je me réfère à l'époque de Kanouté, de Samuel Eto'o, de Carlos Kameni, voilà. Maintenant, on n'en a pas beaucoup, mais on souhaite, comme on le dit souvent, on est sous-évalué. Mais je pense que l'Afrique risque de rentrer très fort au niveau de cette ligue. Ouais. Voilà.
Oui. Oui, hein, je pense surtout après, ça va jouer sur la Coupe du Monde, hein, au niveau des joueurs africains aussi. Il y en a dans les sélections qui peuvent se révéler, qui ont été bons cette année. Et la Coupe du Monde, c'est la plus belle vitrine pour se montrer. Donc, on sait très bien qu'il y a des contrats qui se font après ça. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des clubs style Séville, Valence, qui peuvent s'intéresser à des joueurs africains. Il y a de la qualité, en tout cas.
Mais pour ça, là... Pour ça, je pense que Florentino Pérez, il va falloir faire un coup comme avec Rames en 2014. Il va faire un coup post-Coupe du Monde. Normalement, c'est ça, là, les habitudes de Florentino.
Oui. Ça, là, est
dans l'œil du cyclone.
Est à quelque part dans la tête de Florentino Pérez. Et si l'option Neymar ne fonctionne pas...
Ça ne va pas fonctionner.
Je peux vous dire que Salah, elle sera de la Casablanca. Voilà.
Mais Neymar ne peut pas venir.
Comme l'a dit Salim, Florentino, il aime les bons coups. Et quitte à confirmer la saison, la brillante saison que Salah a vécue du côté de Liverpool, la finale le samedi prochain, et aussi à la Coupe du Monde. Et si jamais il frappe très fort, ben il y a personne n'arrêtera Florentino pour le faire venir, même si c'est à 200 millions. Voilà. Ah. Donc, il a besoin de redorer son équipe, de redonner une force à cette équipe qui est fatigués, qui jouent avec le cœur, ben, le Real a besoin de recruter au moins 6 à 7 personnes, 7 bons joueurs, pour vraiment relancer la machine.
Sinon, donc il faut changer toute l'équipe de Zinedine Zidane.
Ah ouais, sinon la machine va s'écrouler. Ouais.
D'accord, on continue donc avec la Ligue 1. Un petit commentaire sur la Ligue 1 avec Marseille et tout ça, oui.
Oui, la Ligue 1, j'ai été au match à la Bougeoire, le match entre Strasbourg et Nantes. C'est un match qui m'a beaucoup plu.
Mais tu n'as pas choisi le bon match. Hein.
Oui, non, mais
il n'y avait aucun intérêt.
Oui, il n'y avait aucun intérêt, mais quand même,
il est parti.
Deux Burkinabés qui devraient s'exprimer de part et d'autre. Donc, il y a un qui s'est...
Qui était remplaçant.
Ouais, les deux n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Bon, l'autre, il est blessé. Nous, on n'est pas dessus. J'ai vu un match qui était pas mal.
Non, mais ce qui me fait rigoler, c'est qu'Adama, il prend l'avion.
Il vient jusqu'à
Nantes pour regarder les deux Burkinabés. Ils sont remplaçants.
C'est un passionné de football.
Ils sont remplaçants. Ils n'ont même pas joué.
Il y a 10 jours, il est parti pour nous aller rencontrer Zizou.
Voilà, à Madrid.
À Madrid. Et aller voir les Cristiano et les Benzema.
Il les a changé
avec. Que...
Quand, si quand je l'amène, j'irai voir Mané à Liverpool. Ne t'inquiète.
Ouais, ça, au moins, ça vaut le déplacement.
Les Sénégalais, c'est mes oncles. Ma grand-mère vient de Podor.
Mais alors,
donc, voilà.
Vaut mieux aller voir des joueurs comme ça que de venir voir le maréchal.
Pas.
De Maréchal et puis Nkoulma. Ils n'ont même pas joué.
C'est ça. Donc, ce n'est pas des joueurs.
Si, arrêtez vos critiques là-haut. Non, on se calme, messieurs.
Alors, toujours sur la Ligue 1, messieurs. Christian Django.
Oui, sur la Ligue 1, donc voilà.
Avec l'équipe de Marseille,
Marseille,
qui a tout perdu finalement, quoi.
Bah oui, mais qui est à sa place.
Débat que j'entends un peu partout.
Ils sont à leur place. Monaco, par rapport à Lyon et Marseille, était largement au-dessus. Donc Monaco deuxième, c'est normal. Et puis ça jouait surtout entre Lyon et Marseille. Donc ils voulaient aller tout casser chez Jean-Michel Aulas. Ils n'ont pas réussi.
Finalement, Lyon l'a échappé belle aussi, parce que. Ouais. À un moment donné, je peux vous dire que...
Face à Nice, ils ont eu chaud.
Ils avaient quand même chaud.
Mais Lyon est coutumier, sur ces dernières années, de finir en trombe comme ça, de faire un gros finish en fin de saison pour s'en sortir. Et puis, dans leur nouveau stade, ils ont réussi, même si c'était mal embarqué face à Nice. Hein, c'est un ancien Lyonnais qui leur met le doublé en plus à la San Plea. Mais ils ont réussi à finir troisième. Donc, une bonne saison pour eux, mais l'échec Europa League, où ils ont vu Marseille venir au Groupama Stadium faire la finale.
La première ligue anglaise sur Africa numéro 1.
Que dire de côté de l'Angleterre, messieurs, avec la finale de la Cup, n'est-ce pas? L'année.
Ouais.
Le dimanche.
Chelsea-Manchester United.
Chelsea-Manchester. Finalement, le sieur entraîneur de.
Conte. Ah, Mourinho. Conte.
Mourinho, oui.
Saison blanche pour lui. Hein,
saison blanche,
toujours,
exactement.
Qui remporte toujours un trophée chaque année. Bah. Cette saison, nada, hein, mais c'était. Je sais pas si vous avez vu le match, franchement, pas pris plus de plaisir que médiocre. Ça à regarder, c'était.
Médiocre.
C'était médiocre. Pour rester poli, c'était médiocre. Ouais.
Hein. J'ai éteint pour regarder la lutte.
Ouais, mais... c'est mieux.
But d'Hazard sur penalty à la 22e minute, mais franchement, le match, c'était laborieux.
C'est marqué pas, et par hasard, mais. Parce que c'était triste comme match, parce que les deux coachs déjà, moi ils m'ont pas plu cette année. Déjà il y a Mourinho qui est dans les calculs, il calcule trop, et Conte, on dirait qu'il s'est désintéressé de son équipe. Je sais pas s'il a fait exprès, il y a d'autres qui disent qu'il a fait exprès. Donc c'est deux équipes les plus tristes que j'ai vues ensemble. Donc c'est pas un choc, on n'est pas étonné de voir ce genre de match. Ces deux équipes n'ont pas.
Alors, on parle d'Unai Emery à Arsenal en remplacement
de Wenger.
Ouais, c'est un bon club et pour le profil qu'il a. Donc, comme disait et Salim, c'est un bon club pour son profil. Mais pourquoi il rigole, Adama?
Adama, on pensait que le monsieur Emery allait revenir chez vous, mais bon, finalement.
Non. Comme le doyen, il dit que c'est un bon profil pour jouer la Europa League avec Arsenal.
Oui.
Non, mais oui, pour Arsenal, coach, voilà, c'est la fin d'un cycle. Donc, à voir qui va arriver. Peut-être Unai Emery. Il visait Patrick Vieira, mais semble-t-il, Patrick Vieira vient du côté de la Côte d'Azur en France. Ouais. Donc,
mais c'est pas fait. Hein.
C'est pas fait encore. Mais je pense que la semaine prochaine, on pourra sûrement annoncer le prochain club de Patrick Vieira.
Moi, j'ai un pote qui vient du côté du Paris Saint-Germain. Il s'appelle
Ronaldinho.
Non,
ah. Buffon. Comment s'appelle-t-il?
Thomas Tuchel.
Buffon. Thomas, Gianluigi.
Gianluigi Buffon.
Buffon.
Gianluigi Buffon.
Ouais. Ah, voilà. Donc.
Ouais, mais.
J'ai dit Thomas, j'ai fait un lapsus parce que son idole c'est Thomas.
Thomas Gono, exactement. J'ai fait un lapsus. Je l'ai connu grâce à Thomas.
Son fils il s'appelle Thomas aussi.
Donc voilà. C'est lui-même qui vient ou c'est son fils qui vient?
Ah, c'est lui-même. C'est lui-même apparemment.
Ah ouais.
Ah, voilà.
Ça commence bien.
Je veux dire, Arsenal terminé.
Mais Doyen, si Buffon vient au Paris Saint-Germain, c'est pour gérer le vestiaire.
Ouais, mais c'est
sûr. Il est quand même bon. Hein, cette année,
j'espère qu'ils vont prendre Diego Maradona aussi. Donc, non.
Mais tu préfères Areola ou bien Buffon?
Au PSG, on doit prendre des gardiens et des avant-centres. Donc, je ne sais pas qui doit prendre. Mais le PSG, sans de bons gardiens et de bons avant-centres, ils n'ont nulle part.
Mais est-ce que Buffon est meilleur qu'Areola pour toi?
Oui.
Ouais, bien sûr.
Messieurs, merci beaucoup. Dans quelques instants, vous restez pour la suite du programme avec donc Fatou. Tu vas où? Je sais pas où est-ce qu'elle va, mais bon, en tout cas, on vous retrouve lundi prochain. Donc cette fois-ci avec d'autres nouvelles. Merci Christian, merci Adama, merci Salim, merci le doyen Willy.
Tu vas où Fatou, présenté par Fatou Birama sur Africa numéro 1.